I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Oui. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir à la même heure pour Soir Info sur CNews en direct jusqu'à minuit. Au sommaire, notamment ce soir, l'offensive judiciaire des parents de la petite Lindsay suicidée à l'âge de 13 ans après avoir été harcelée pendant des mois dans son collège du Pas-de-Calais, des parents meurtris qui visent directement l'éducation nationale, les réseaux sociaux, mais aussi les policiers pour n'avoir pas réagi assez vite aux plaintes déposées par la victime. On va entendre la colère de la maman de Lindsay notamment, mais aussi de plusieurs de ses amis de classe qui, elles aussi, sont harcelées désormais. Un enfant sur 10 est touché par ce fléau en France. Les images accablantes de Mohamed Awas, le rugbyman de Montpellier qui a frappé sa femme le 26 mai dans un centre commercial. Il a été condamné pour mémoire à un an de prison ferme. L'homme de 29 ans n'ira pas en prison hein, grâce à une peine aménageable. Iman Awas, sa femme, n'a pas porté plainte contre lui. Sur les images du centre commercial, on en apprend un peu plus donc sur l'agression et forcément la question, la justice a-t-elle vraiment pris la mesure de ce qui s'est passé ? Et puis la montée en puissance des règlements de compte liés au trafic de stupéfiants. Pas un jour sans un mort dans une fusillade. Désormais, c'est en plein jour, à l'arme lourde, que l'on fait sa loi dans notre pays. Peut-on endiguer cette sud-américanisation de certains quartiers ? Nous en débattrons avec mes invités du soir. Karim Abric, évidemment, de la rédaction de CNews. Bonsoir à vous. Bonsoir. À vos côtés, Alexandre Devecchio, rédacteur en chef au Figaro. Bonsoir, bonsoir Alexandre. Bonsoir à Maître Pierre-Henri Bovis, avocat.
Bonsoir.
Merci d'être présent. Merci à Yoann Uzaï, comme chaque soir, d'être autour de la table. Journaliste
bonsoir,
politique de CNews. Et bonsoir à Benjamin Morel, maître de conférence en droit
bonsoir.
Public. Bonsoir, cher Benjamin. Il est 22h, passé de 1 minute. Le rappel de l'actualité, Mathieu Devez. À tout de suite.
Un an de prison avec sursis a été requis contre Laetitia Avia, l'ancienne députée de Paris et pilier de la majorité, jugée pour harcèlement moral sur 7 de ses ex-assistants parlementaires entre 2017 et 2020. Dans son réquisitoire, la procureure a estimé que l'élu avait bien dénigré et humilié ses collaborateurs. L'assurance maladie émet de très fortes réserves sur le projet de fusion de la carte d'identité avec la carte vitale. Cette fusion envisagée par le gouvernement doit permettre de lutter contre la fraude sociale, mais selon l'assurance maladie, le projet ne semble répondre à aucun besoin. Il pourrait même fragiliser le déploiement de l'application carte vitale sur les téléphones. Enfin, Marine Le Pen dénonce un rapport parlementaire malhonnête de la commission d'enquête sur les ingérences étrangères. Le rapport pointe du doigt le Front National devenu RN pour ses liens avec le Kremlin, notamment en 2014 lors de l'annexion de la Crimée.
On va marquer une très courte pause, on va se retrouver avec un premier thème, les obsèques de Karen Mézineau, 37 ans, qui avaient lieu aujourd'hui. On rappelle qu'elle a été poignardée à mort à Reims par un noble atteint de troubles mentaux. Les personnes, les proches de Karen Mézineau, partagées entre grande émotion et immense colère également aujourd'hui. À tout de suite. De retour en direct sur CNews, merci si vous nous rejoignez pour Soir Info, Karim Abric, Yoann Uzaï, Alexandre Devecchio, Benjamin Morel, Pierre-Henri Bovis. Ce dernier hommage d'abord, dernier hommage devant plusieurs centaines de personnes, les obsèques de Karen Mézineau. Cette infirmière de 37 ans, poignardée, vous vous en souvenez, à mort, c'était à la fin du mois de mai à l'hôpital de Reims par un homme atteint de troubles mentaux. Une cérémonie qui a débuté aujourd'hui dans la basilique Saint-Rémy de Reims. Le ministre de la Santé, François Braun, est également venu assister à la cérémonie que nous commente Régine Delfour sur place.
Une cérémonie pleine d'émotions qui a débuté à 9h30 avec l'arrivée du cercueil de Karen dans la basilique Saint-Rémy. Ce cercueil était précédé de son mari et de ses deux enfants. L'entrée du cercueil dans la basilique était sur une chanson préférée de Karen, Petite Marie de Francis Cabrel. 1200 personnes étaient réunies à l'intérieur de la basilique pour assister à cette messe présidée par l'archevêque de Reims. Parmi ces personnes présentes, donc, il y avait énormément de soignants, des centaines de soignants avec leur blouse blanche. C'était une demande, une volonté de la famille de Karen. Des moments forts à retenir, notamment les prises de parole des proches de Karen, celles de sa maman, de son frère, mais aussi de son mari et de deux de ses amis. La messe a duré plus d'une heure et demie. À l'issue de cette cérémonie, quand le cercueil est sorti avec la famille, les soignants, les personnes présentes étaient sur le parvis et ils ont tous applaudi.
Et écoutez, avant qu'on en dise quelques mots, quelques-unes des personnes présentes à cet hommage.
On était présents autour de sa famille et c'est un moment de partage fort.
C'est dur. Il y avait un silence dans l'église. Personne ne parlait. On sentait que chacun avait sa peine.
C'était une très belle cérémonie. C'était un bel hommage. Après, personnellement, je ne la connaissais pas, mais c'était un très bel hommage. Et puis, je pense que ça montre le soutien de toute la profession soignante à ses proches.
Énormément d'émotions, Alexandre Devecchio. Encore une fois, une tragique disparition qui suscite également, je le disais tout à l'heure dans le sommaire, également beaucoup de colère, puisqu'on rappelle que l'auteur présumé des faits était connu pour sa dangerosité. C'est là que porte le débat, au-delà des commentaires et de la mémoire que l'on doit avoir pour Karen Mézineau.
Oui, ça porte sur deux points, je dirais. La justice, puisqu'effectivement, il était défavorablement... connu de la justice, déjà condamné. Et ensuite, il y a un débat aussi, je crois, sur les services publics, avec le fait que la psychiatrie est l'un des parents pauvres. J'ai l'impression qu'il n'y a plus que des parents pauvres en France et que du coup, on laisse des individus dangereux en liberté. Et donc ça pose même la question derrière de l'État et de son fonctionnement. C'est l'une des grandes questions qui traverse la France, je dirais presque sur tous les sujets, qui ne pourra pas être réglé en quelques jours, mais il faudrait déjà commencer par faire le bon diagnostic.
Si on a vu Pierre-Henri Beauvais, Maître Beauvais, si on a vu autant de blouses blanches, aujourd'hui sur ce parvis, des blouses blanches qui, pour certaines d'entre elles, ne connaissaient pas cette infirmière, mais qui sont venues témoigner, lui rendre hommage, c'est parce que l'hôpital, en fait, comme beaucoup de services publics, est une sorte de métaphore de ce qu'est notre société aujourd'hui, en fait. Et tous ces gens en ont conscience, le vivent 24 heures sur 24.
Oui, exactement. Parce que dans cette affaire, l'auteur souffrirait de troubles psychiatriques, mais je pense...
Schizophrénique,
mais je pense que justement ces troubles-là ne doivent pas non plus cacher le fait que l'hôpital aujourd'hui part en lambeaux. Et comme d'ailleurs la plupart des services publics. On ne comprend pas pourquoi il n'y a pas plus de sécurité. Alors, ce n'est pas la question de mettre un policier derrière chaque médecin, évidemment, ce n'est pas le sujet. Mais au moins un minimum de sécurité à l'entrée des hôpitaux. Et d'ailleurs, c'est ce que demandent aujourd'hui la plupart, d'ailleurs, des directeurs d'hôpitaux qui se plaignent des violences, mais d'ailleurs...
Si on commençait par mettre plus de moyens et de personnel, peut-être que ça éviterait dans un premier temps de mettre des portiques de sécurité, des détecteurs de métaux à l'entrée des hôpitaux, parce que ce serait en effet tragique d'en arriver là.
Ce serait tragique d'en arriver là, mais en même temps, il y a des violences verbales, des violences physiques, parce que d'ailleurs, beaucoup de ceux qui vont se faire soigner pensent que tout leur est dû et donc demandent un service immédiat, etc., crient, insultent les professionnels de santé. Et donc, il y a des directeurs d'hôpitaux aujourd'hui qui demandent qu'il y ait plus de sécurité avec ne serait-ce que plus de vigiles, en tout cas plus de moyens, peut-être des portiques. Est-ce qu'il faudrait en mettre? C'est la question qui se pose. Mmh. Aujourd'hui, il y en a d'ailleurs, la question se pose aussi pour les écoles, par exemple. Donc, je pense que les troubles psychiatriques dont souffre l'auteur ne doivent pas cacher le fait que l'hôpital aujourd'hui part en lambeaux, comme la plupart des services publics. Après, il y a une défaillance, je pense, effectivement, au niveau de la justice, parce que lorsque vous avez face à vous un malade, disons les choses clairement, un malade, la passerelle entre la santé et la justice est beaucoup trop longue. Parce qu'un médecin n'est pas un magistrat n'est pas un médecin, il ne peut pas prendre une décision seul et donc il fait appel à un collège d'experts.
Et mais même les experts, on en a beaucoup parlé il y a une dizaine de jours, donc lorsque ce drame est arrivé, on voit qu'entre l'avis des experts, l'avis des proches, notamment de la mère, vous avez des différences d'appréciation sur le profil et puis surtout aussi cette incapacité à anticiper un comportement psychotique. Là, la justice, les experts n'y peuvent pas grand-chose, j'ai envie de dire.
Non, mais c'est surtout qu'il avait été enfermé pendant un temps. Mais il a été ensuite libéré.
Il y avait un manque de suivi. Et au moment des faits, il était en liberté.
Et c'est la raison. En fait, c'est la question que d'ailleurs tout le monde se pose. Pourquoi il était en liberté, sachant qu'il avait quelques années auparavant agressé 4 personnes, et raison pour laquelle d'ailleurs la chambre de l'instruction était saisie pour savoir s'il devait comparaître devant un tribunal. C'était la question qui se posait d'ailleurs quelques jours avant ce drame. Mais pourquoi était-il en liberté, sachant qu'il avait déjà agressé quelqu'un? C'est la question que d'ailleurs tout le monde se pose, que tous les Français se posent, et qui est légitime. Parce que ce n'est même pas une question technique. Je veux dire, c'est même pas une question technique juridique. Et vous serez sûrement d'accord avec moi, c'est pas une question technique. Simplement, il y a un individu qui est dehors, il y a un individu qui a agressé déjà des personnes, il y a un risque de récidive, pourquoi il est en liberté?
Parce que la société se protège de moins en moins, Yohann Uzaï, parce que c'est pas forcément avec les bons sentiments qu'on doit faire de la politique, qu'on doit faire passer la justice.
Oui, mais pour moi, le problème n'est pas la protection de l'hôpital. Enfin, la question peut se poser, mais à ce moment-là, il faut protéger les hôpitaux. Maintenant, on va protéger les commissariats, donc protéger ceux qui nous protègent. Il faut protéger les écoles aussi, parce qu'il y a beaucoup d'agressions dans les écoles.
Du harcèlement dont on va parler.
Vous voyez bien qu'on ne peut pas protéger tout le monde, ni toutes les institutions de notre pays. La question, effectivement, c'est pourquoi est-ce qu'il était en liberté ? Et là, il y a des failles, il y a un manque de moyens qui est criant, pas depuis des années, mais depuis des décennies. Hein. Tout n'est pas de la responsabilité du président de la République actuel, mais on est quand même obligé de constater que depuis des décennies, on a laissé faire, sans se soucier, sans se préoccuper des conséquences. Et on arrive aujourd'hui à ce résultat. On a des personnes qui sont potentiellement dangereuses. Ce monsieur-là, en l'occurrence, en fait partie. Il est malheureusement passé à l'acte. Mais combien sont dehors aujourd'hui ? Combien de personnes potentiellement dangereuses sont susceptibles de passer à l'acte ? Mais je suis certain qu'on ne le sait même pas, parce qu'on n'a pas les moyens de le savoir. Parce que la psychiatrie dans notre pays, c'est le parent pauvre depuis très longtemps, qu'on n'a pas les moyens de soigner ces personnes-là et donc de les suivre. Et donc, ils sont dans la nature et peut-être un jour, certains d'entre eux passeront à l'acte.
Un ou deux derniers mots, Karima Brik.
Oui, mais dans cette affaire aussi, ce qui est assez troublant, on a l'impression que le système l'a littéralement échappé. Parce qu'en effet, on connaissait, il y avait des faits qui avaient été constatés quelques années avant, des agressions. Donc, on se dit, est-ce qu'il y avait une fixation sur les fameuses blouses blanches? Il était suivi, ce monsieur. Donc, il y a vraiment...
Il a dit qu'il voulait s'attaquer à des
Exactement.
Blouses blanches.
Donc,
il en voulait aux blouses blanches.
C'est ça. Donc, on le dit parfois, c'est vrai que ça peut être difficile... par exemple, de déterminer est-ce que la personne va passer à l'acte ou quoi que ce soit. Mais dans ce cas précis, il y avait des indicateurs, il y avait eu déjà des agressions. Donc, on ne peut pas dire non plus que c'était complètement absurde d'imaginer qu'il y avait des risques de récidive. Et c'est toujours ça qu'on doit analyser. Et aussi, dans la particularité de cette affaire, c'est la lenteur de la justice. Rappelez-vous, les faits qui ont eu lieu, qui lui étaient reprochés, en fait, c'était en 2017.
Il devait être jugé à la fin du mois de mai. Entre-temps, il a commis l'irréparable sur Karen Mézineau.
Et si je peux me permettre, une phrase aussi sur le personnel soignant en général. Quand on voit cet hommage, moi, je trouve ça extrêmement touchant, mais on voit aussi, je pense qu'il y a un message qui doit passer, c'est que le personnel soignant est en première ligne et c'est un véritable fléau, la violence envers... Bon, les infirmières, envers vraiment, souvent en fait, pour le personnel auxiliaire, donc le personnel des soins de santé. Donc oui, il y a une question de sécurité aussi. Il y a un appel à l'aide qui est souvent fait de la part des soignants. Donc je pense qu'il faut quand même constater que c'est un problème qu'on voit en ce moment.
Un mot avant de revenir vers vous, Maître Bovis, pour une dernière question. Benjamin Morel, on a vu tous ces personnels soignants, je le disais aujourd'hui pour cet hommage. Je rappelle également donc que le ministre de la Santé qui était présent aussi. Qu'est-ce qu'ils doivent attendre, tous ces personnels de santé, de la part du ministre ?
Si vous voulez, le problème est toujours le même. Ce n'est pas le problème de la loi. Hein. Je reviens à ma vieille antienne, mais c'est un problème d'application de la loi. Et pour faire appliquer la loi, il faut des moyens.
Et de moyens et de personnel.
Exactement. C'est-à-dire qu'il faut que la justice soit plus rapide, ça demande des moyens. Il faut qu'on puisse suivre psychiatriquement les gens qu'on considère comme en effet ayant des pathologies. Et ensuite, il faut qu'on puisse les isoler. Ça implique également des moyens. À l'hôpital également, si vous voulez qu'il y ait moins de violence, il faut déjà qu'il n'y ait plus des dizaines d'heures d'attente aux urgences. Parce que ça crée de la tension chez les soignants et chez les patients. Donc forcément, vous avez une montée verbale qui peut entraîner des violences. Donc oui, en effet, il y a des problèmes de sécurité dans le pays. Oui, peut-être qu'on peut modifier quelques éléments législatifs, mais il faut surtout que les services publics fonctionnent. Pour ça, je suis désolé d'y revenir, il faut des moyens. Et je crois que c'est quand même l'attente aujourd'hui de beaucoup de personnels qui sont ici.
Encore un mot avant notre dernière pause de la soirée. Maître Bovis, qu'est-ce qui va déterminer si un procès pourra se tenir contre lui, puisqu'on parle d'un psychotique, d'un schizophrène? Est-ce qu'il pourrait être pénalement irresponsable?
Toute la question va être de savoir s'il était conscient ou non de ses actes au moment où il est passé à l'acte, justement. Et donc, ça va être la question qui a été posée aux experts, à ce collège d'experts, qui, du coup, sera amené à se positionner sur cette irresponsabilité pénale. Alors après, évidemment, le dernier mot appartient aux magistrats, mais il faut savoir que les magistrats, évidemment, se rangent derrière l'avis, généralement, des experts, puisqu'eux-mêmes ne sont pas médecins. Mais après, si vous voulez, pour répondre plus généralement à la question, la vraie problématique, ça va être, c'est l'application de la sanction. C'est-à-dire que dès lors que vous enfreignez la loi, il faut qu'il y ait une sanction automatique et ferme. Il faut arrêter justement qu'il y ait des sanctions prononcées qui ne soient pas exécutées. Évidemment. Et c'est le problème de l'exécution des peines aujourd'hui qui est... On est très problématique dans ce pays.
En tout cas, on pense fort à Karen Mézineau et à tous ceux qui la connaissaient de près ou de loin. Marc, je le disais, une dernière pause de la soirée et on reviendra sur cette conférence de presse de la famille des parents de l'INSEE aujourd'hui qui ont annoncé donc déposer plainte pour non-assistance à personne en péril. On revient très longuement sur cette affaire juste après la pause. À tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info, on poursuit nos débats avec les invités juste après le rappel de l'actualité. Mathieu Devez.
L'auteur présumé de la fusillade à Nantua a été interpellé. L'homme s'est rendu aux forces de l'ordre aux alentours de 15h. Il est soupçonné d'avoir tiré ce matin avec une arme à feu dans un bar de cette petite ville de l'Ain. Le bilan est d'un mort et de deux blessés. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un différend entre personnes d'origine turque. Elisabeth Borne a officiellement lancé le service public de la petite enfance. La première ministre était en déplacement aujourd'hui à Angers et Laval pour évoquer les freins à l'emploi comme la garde d'enfants. Le gouvernement veut notamment créer 100 000 places d'accueil supplémentaires pour les jeunes enfants d'ici 2027, avec l'objectif d'aboutir à 200 000 d'ici 2030. Enfin, le Parlement a adopté un projet de loi pour encadrer le secteur des influenceurs. Après les députés hier, les sénateurs ont aujourd'hui adopté le texte. Il prévoit d'interdire la promotion de certaines pratiques comme la chirurgie esthétique. Les peines prévues en cas de manquement iront jusqu'à 2 ans de prison et 300 000 euros d'amende.
C'est beau l'Assemblée vide, hein, Maître Beauvisier, lorsqu'on
bon, voyait cette image. Au moins, on voit que ça bosse.
C'est calme.
On voit que
ça bosse, primaire.
Pierre-Henri Beauvis, donc avocat qui est parmi nous, Benjamin Morel, Alexandre Devecchio, Yohann Uzaï et Karima Brik. On en vient à ce sujet d'importance majeure. On a été lâchés. Voilà les mots de la mère de Lindsay, une adolescente de 13 ans qui s'est donc donné la mort le 12 mai dans le Pas-de-Calais après avoir été harcelée au collège, en ligne également. Les parents qui ont tenu une conférence de presse également aujourd'hui, ils annoncent le dépôt de 4 plaintes pour non-assistance à personne en péril à l'encontre du principal de l'établissement, de l'Académie de Lille, des policiers chargés d'une première plainte et contre Facebook et Instagram France. Écoutez un premier extrait de la mère de l'INSEE qui explique qu'elle et sa famille, comme je le disais il y a un instant, ont été lâchées.
J'ai tout essayé, j'ai tout fait. Et on n'a pas été aidé, on a été lâché complètement. Aucun soutien, ni avant, ni pendant, et ni après. Aujourd'hui, on n'a eu aucun courrier de qui que ce soit par rapport à ce qui s'est passé pour ma fille. Je voulais vous dire aussi que l'INSEE, à un moment, elle était au collège et elle demandait de l'aide au directeur. Chose qu'elle a précisé aussi. Et que, justement, le directeur lui a carrément dit « Écoute, tu m'embêtes avec tes bêtises. On n'a pas que ça à faire. Ça reste entre nous. » Il lui a totalement dit ça. Donc aujourd'hui, je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui nous soutiennent. Parce que vous êtes ma force aujourd'hui. Sans vous, je ne serais pas là. Je ne sais même pas où je serai d'ailleurs, mais je ne sais plus. Elle me manque.
C'est évidemment une honte la façon dont cette famille a été lâchée. En tout cas, si tout ce que nous dit cette famille est avéré, c'est une honte. Écoutez un deuxième extrait de cette maman qui demande donc justice pour le mal qui a été fait à l'INSEE et à toute cette famille.
J'attends que toutes les personnes concernées, toutes les personnes qui ont fait du mal à ma fille, toutes les personnes qui ne l'ont pas aidée, soient jugées, tout simplement, pour le mal qu'ils ont fait aujourd'hui. Aujourd'hui, ils m'ont tout pris. Ils ont tué ma fille. C'est de leur faute. C'est eux qui ont tué ma fille. C'est pas ma fille qui s'est suicidée. C'est eux qui l'ont tuée. Ils l'ont poussée à faire ça. Et aujourd'hui, ils se rendent pas compte, mais ils m'ont tout enlevé aujourd'hui. J'ai 2 autres enfants, mais moi, ma fille, c'est tout pour moi.
Elle a raison, Benjamin Morel. On doit des réponses à cette famille, d'autant que les harceleurs hein, ou harceleuses, d'ailleurs, continuent avec sa meilleure amie qui est prénommée Maïlis.
Bien sûr, il y a plusieurs débats dans ce débat. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on protège les gamins ? On les protège à la fois à l'école, et là, il y a une responsabilité de l'institution. Je ne parle pas, et le fait que ce soit l'académie qui soit attaquée est intéressant. Je ne parle pas des profs, encore une fois, qui souvent sont sous la pression des parents et avec une indifférence totale de leur hiérarchie. Je parle vraiment de l'institution. Cette institution qui, en règle générale, ne veut pas faire de vagues avec les parents, ne veut pas non plus rentrer dans une logique qui soit une logique d'exclusion vis-à-vis de certains enfants qui peuvent être problématiques, et donc met la poussière sous le tapis aux dépens des gamins qui se font harceler. Donc il y a un sujet institution, et ensuite il y a un sujet réseaux sociaux aussi, où là, aujourd'hui, eh ben, on est incapable de faire pression sur les réseaux sociaux pour qu'ils stoppent des phénomènes de harcèlement, etc. On a vu ça déjà 10 fois.
Tout simplement. Ouais.
Mais bien sûr, mais ce sujet humain, si vous voulez le traiter, il faut aujourd'hui arriver à rentrer en bras de fer avec cette institution, avec les réseaux sociaux. On en a les moyens. L'institution de l'éducation nationale, c'est l'État, et donc il y a la nécessité que ça bouge. Et de l'autre côté, eh bien, pour faire pression sur les réseaux sociaux, des pays comme la Turquie ou la Chine l'ont fait. Donc au niveau européen ou au niveau français, on peut le faire aussi.
Maître Bovis, à chaque fois qu'une victime de harcèlement scolaire met fin à ses jours, on se dit que les choses vont forcément bouger, que dans le temps de l'émotion, des actions vont avoir lieu, des prises de conscience vont avoir lieu également, que ce fléau ne doit plus faire partie du quotidien de nos jeunes. Elle avait suivi tous les conseils, l'INSEE. Tous ces conseils pratiques de prévention, elle les a suivis. Elle en avait parlé à ses parents, qui eux-mêmes avaient alerté le proviseur, la police, sans que rien ne bouge. C'est terrible. En effet, cette non-assistance à la personne en péril, qui qualifie les différentes plaintes qui sont déposées, ça paraît totalement idoine.
Vous parlez d'un sujet humain, ce qui est sidérant, écœurant même, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les enfants qui sont harcelés, qui sont amenés à changer d'établissement. Mmh. C'est le monde à l'envers. C'est-à-dire que
Les nouvelles directives tendent à nous faire penser que tout cela ne sera plus vrai. Et d'ailleurs, l'affaire du petit Maël, dont on a parlé il y a plusieurs semaines, c'est un cas assez unique où le harceleur a été changé d'établissement au profit de Maël.
Et on peut le féliciter.
Mais c'est vrai que jusqu'à présent, ce n'était pas le cas.
Combien d'enfants se sont retrouvés harcelés et ont été contraints d'être changés d'établissement, avec en plus toutes les conséquences sociales? On quitte ses copains, on se retrouve dans un établissement, on doit expliquer les raisons peut-être du pourquoi ou autre, en tout cas du moins avec les réseaux sociaux, les autres l'apprennent. C'est très compliqué.
C'est de la poussière sous le tapis, c'est de la poussière sous le tapis.
Et après, effectivement, le vrai sujet, c'est le sujet des réseaux sociaux, puisque je trouve d'autant plus écœurant aujourd'hui l'attitude de certains gamins, là sur TikTok notamment, c'est ce que je voyais tout à l'heure, qui juste rigolent de l'affaire.
C'est ça qui nous a rendus complètement fous tous en tant que personnes. C'est-à-dire qu'après la mort de l'INSEE, tout cela a continué. Chacun pouvait se dire, ils l'ont menacé, le pire est arrivé, et tout cela va s'arrêter nécessairement au moment de la mort de cet enfant. Bah non.
Mais en fait, à ce niveau-là, je ne sais pas si c'est de l'inconscience ou juste de la bêtise, de la stupidité, parce que c'est peut-être aussi des gamins totalement stupides, je n'en sais rien, ou inconscients, ou peut-être les deux. Mais en tout cas, il y a un vrai sujet aussi au niveau là des parents et de l'éducation. Je veux dire, comment, pareil, les parents peuvent tolérer que leur gamin continue à harceler
Vous avez une mère parmi les harceleurs qui a dit « un drame est vite arrivé », qui a envoyé le message « un drame est vite arrivé » à l'INSEE.
Mais vous voyez, c'est...
Ça glace le sang.
Ça glace le sang, et ensuite le vrai sujet, je pense, on peut avoir des ministres compatissants, mais tristement impuissants face à ce fléau, ce sont le fléau des réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui, les politiques publiques sont totalement impuissantes face à la puissance des réseaux sociaux, puisque lorsque vous adressez une requête à Instagram ou à Facebook, nous-mêmes, avocats, ça nous arrive, sur d'autres sujets, les réseaux sociaux ne répondent jamais, quasiment jamais, ou s'ils répondent, c'est en prenant beaucoup de temps, parce qu'ils estiment, c'est la logique et la politique américaine, c'est la logique de c'est une liberté d'expression totale, absolue, et on voit et on analyse au cas par cas très précisément si oui ou non on va restreindre ou non les commentaires haineux. Mais c'est vrai que Facebook France notamment, là en l'occurrence, a une vraie responsabilité dans ce
domaine. On va parler de l'institution, on entendra le ministre de l'Éducation nationale qui a réagi ce soir, on va parler de ce volet en effet des réseaux sociaux, je voudrais juste qu'on reste un instant sur ces fameux conseils, ces fameuses choses à faire que l'INSEE a faites, à savoir prévenir, alerter. Je voudrais que vous entendiez Maître Pierre Dubuisson, qui représente donc la famille de l'INSEE, qui a relu une lettre aujourd'hui que l'INSEE avait écrite avant son geste fatal. Elle avait été transmise à la police. Il nous relit la lettre qui avait été écrite des mains de l'INSEE. Donc écoutez et regardez.
Chers parents, si vous lisez cette lettre, c'est que je suis sûrement parti. Je suis désolé d'avoir fait ça, mais je n'en pouvais plus. Des insultes matin et soir, des moqueries, des menaces. Je n'en peux plus et j'ai envie d'en finir. Mais rien ne les arrêtera, car malgré tout ce qui s'est passé, elles me voudront toujours du mal. Pardon maman, je suis parti rejoindre papa, puisque son père est décédé quand elle avait 3 ans. Et j'espère de tout cœur que ce que j'ai fait aura servi à quelque chose. Je pense que ce que j'ai fait va les réjouir. Elles penseront qu'elles ont gagné et arrêteront tout ça. Je ne pouvais même pas me confier au directeur, car il tenait avec elle, il ne voulait rien entendre. Donc la seule chose que je pouvais faire est de partir. Faites attention à Maëlys. Maëlys qui était assise à côté de moi tout à l'heure et qui n'a pas supporté l'émotion, et on la comprend, et à ce qui pourrait lui arriver. Faites attention à vous, je vous aime, au revoir.
Et l'autre jeune fille d'ailleurs qu'on entendra tout à l'heure qui était assise à la droite de l'avocate, elle s'appelle Océane et elle aussi souffre, enfin déplore du harcèlement sur sa personne. Cette lettre, elle nous bouleverse tous. Personne ne pouvait ignorer la souffrance de Lindsay.
Mais
c'est inacceptable.
On verra dans ce dossier la responsabilité du proviseur, voir s'il a pris les mesures ou non. Et c'est peut-être un peu précipité de se positionner là-dessus. Mais ce qui est certain, c'est qu'évidemment, dès lors qu'il y a un proviseur qui est responsable de ses élèves, un drame pareil engage soit sa responsabilité juridique, soit sa responsabilité morale. Mais évidemment, il y a une faille dans le dispositif.
Je poursuis les réactions autour de table. Je voudrais juste qu'on passe par le Pas-de-Calais où Jeanne Cancard a suivi cette conférence de presse. Elle nous rappelle l'émotion sur place et la précision des plaintes déposées par la famille et leur avocat.
Tout au long de cette conférence de presse, les parents de l'INSEE et leur avocat ont cherché à démontrer point par point la série de dysfonctionnements qui, selon eux, a mené au suicide de leur fille, au suicide de l'INSEE, 13 ans, qui subissait depuis la rentrée de septembre dernier un harcèlement scolaire quasi permanent, quasi quotidien. Les parents de l'INSEE qui ont expliqué combien de fois, comment, par quels moyens ils ont tenté d'alerter, que ce soit les pouvoirs publics et aussi les responsables du collège, les responsables de l'établissement. À leur côté, durant cette conférence de presse, il y avait également la maman de Maïlis, la meilleure amie de l'INSEE, qui elle aussi était victime de harcèlement. C'est toujours le cas. Elle continue sur les réseaux sociaux à recevoir des menaces, à recevoir des messages d'insultes. Autre moment fort de cette conférence de presse, c'est lorsque l'avocat de la famille a lu la lettre de suicide rédigée par l'INSEE en février dernier, 3 mois avant son suicide. Cette lettre, à l'intérieur de cette lettre, elle explique son mal-être. Elle explique combien elle a tenté d'appeler à l'aide, mais en vain. Une lettre qui aurait, selon donc toujours l'avocat et les familles, été transmise à l'établissement scolaire, mais aussi au dossier médical de l'INSEE, sans aucun résultat, sans aucune réponse. L'avocat de la famille qui a annoncé aussi le dépôt de plusieurs plaintes, notamment contre l'Académie de Lille et le directeur du collège.
Et puis une autre chose qu'on a appris de la bouche de la famille aujourd'hui, il n'y avait, Karima Bric, aucun membre de l'établissement de l'INSEE à la marche blanche qui a été organisée pour elle après sa mort. Ça dit tout.
Ça dit tout, ça dit l'énorme malaise. On a l'impression, on se dit, est-ce qu'ils sont en train de préparer un peu leur défense pour la suite des choses? Il y a un peu tout ça, mais je suis d'accord avec vous. Ça laisse vraiment, en tout cas, ça présage. On ne sait pas pour la suite, mais franchement, ça nous rend très, très mal à l'aise. Je veux revenir, moi, ce que je trouve choquant, bouleversant dans cette histoire, c'est cette espèce de pyramide d'accumulation de signalements et de démissions autour. On a vraiment l'impression qu'on est ou dans la démission des institutions, ou dans le déni, ou dans la minimisation des faits. Comme c'est des trucs, c'est des trucs de gamins, c'est pas si grave que ça, et on balaie toujours un peu la responsabilité à gauche ou à droite.
C'était vraiment l'attitude du principal, du proviseur. Ouais.
Oui, ben ça c'est déplorable. Et on a parlé des réseaux sociaux, de cette haine en ligne. Je pense qu'on va devoir se dire, pour l'institution scolaire, est-ce que ça appartient finalement à l'école aussi, de réagir à ça. C'est-à-dire que si on balaie puis on dit toujours c'est la faute à Facebook, c'est la faute à Instagram, Snapchat et tout ça, on va jamais régler le problème. Parce que c'est vrai que c'est complexe d'attaquer des géants comme ça. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est la question de la liberté d'expression. Alors, qu'est-ce qui est considéré comme un propos, comme des propos haineux versus des propos...
C'est cadré par la loi.
C'est
cadré par la loi, les propos haineux et les menaces.
Ben attention, non, c'est ce que je dis. Non, mais qu'est-ce qui est considéré comme des propos haineux versus des propos dérangeants? Parce que peut-être pour certains, on pourrait dire que ce sont des propos haineux. D'autres, non, c'est pas nécessairement des propos haineux. Ce que je veux dire, c'est là est toute la difficulté de légiférer là-dessus quand on est dans un contexte de liberté d'expression. C'est pour ça que je dis, si par exemple on se dit que le harcèlement scolaire se poursuit sur les réseaux sociaux, pour moi, ce ne sont que des outils numériques. Donc on devrait se dire, ben ça concerne des élèves. Les propos.
Oui, mais ça donne une proportion peut-être encore plus grande, encore plus dévastatrice.
Je ne dis pas qu'on ne peut pas rien faire. Je dis que ça devrait faire partie aussi des responsabilités de l'école, même si le harcèlement se fait en ligne.
Je disais qu'il y a eu des messages qui ont été reçus sur le compte de l'INSEE après sa mort, se réjouissant de sa mort. Sa meilleure amie, Maïlis, est harcelée actuellement. Vous avez des équipes de motards, de privés qui l'amènent à l'école parce que personne ne fait rien.
Mais pour moi, l'institution scolaire devrait réagir. C'est-à-dire que là, vous avez un cas précis.
Ce sont des motards qui amènent Maïlis à l'école. Et puis, vous avez Océane, que l'on voyait donc à l'image à la droite de l'avocat de la famille de l'INSEE, qui, elle aussi, en ce moment, dans le même collège, est harcelée. Et elle raconte à Jeanne Cancard ce qui se passe dans son quotidien.
Au bout d'un moment, dans les cours de sport, ça a commencé à me bousculer, à me taper, à me lancer des raquettes dans la tête, à me faire des mauvais plaquages quand on faisait rugby. On m'a cassé plusieurs fois le poignet, les chevilles. Et à chaque fois, quand j'allais me plaindre, on me disait « c'est pas vrai, il faut te forger un caractère et il faut arrêter de faire ta victime ». Il y a une amie à moi qui est aussi en troisième, je ne cite pas son nom pour la préserver. Elle se fait aussi harceler, elle a essayé d'en parler. Mais comme on m'a dit, il faut arrêter les réseaux sociaux parce que ça se passait aussi sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas avoir de téléphone. À cet âge-là, il faut juste avoir un téléphone à clapper.
Ils ont dit à la maman de l'INSEE finalement.
Voilà, ils ont dit exactement la même chose à l'INSEE. Je crois qu'ils prennent le même discours pour chaque personne qui est victime d'harcèlement.
Puis juste avant d'en reparler en plateau, écoutez la mère d'Océane sur les proportions que prennent le harcèlement de sa fille.
Déjà, lorsqu'elle a subi de l'harcèlement en CE2, elle m'avait prévenu qu'elle était harcelée. Mais c'était des mots d'enfant. Elle me disait « Maman, on me traite de grosse et tout ». Je dis « Oh, c'est pas grave, c'est des enfants ». Et j'aurais jamais pensé qu'elle aurait voulu se défenestrer. Donc déjà là, quand j'ai compris, je m'en suis voulu. Et là, depuis la sixième, de ce fait qu'elle se ferait harceler, je me dis « il faut que j'agisse ». Il y a une des harceleuses, malheureusement, je ne sais pas si elle n'a pas été déclarée non coupable ou je ne sais pas ce qui se passe au niveau judiciaire parce que je n'ai pas vu sur le dossier judiciaire. Mais tout ce que je sais, et c'est ça mes cœurs, c'est que cette gamine est encore dans l'établissement, continue encore de menacer ma fille et rigole, quoi. Même le jour où j'étais à la marche blanche, je l'ai croisée sur le chemin du retour, mais elle rigolait. Pour elle, je ne sais pas si c'est un jeu ou pas, mais moi, c'est honteux.
Et ce qu'on apprend, ce qu'on comprend à travers les propos de cette mère, c'est que Océane aussi a fait des tentatives de suicide. Qu'est-ce qui se passe, Alexandre, dans la tête des gens, des jeunes, des parents, puisque je rappelle, une mère est également mise en examen dans l'affaire l'INSEE, des gens qui se jettent en meute sur une personne comme ça?
Il y a une forme de déshumanisation, d'obéissance à des pulsions primaires, en réalité.
Où sont les adultes ?
Ils n'ont plus aucun repère, et les adultes apparemment ne sont nulle part, voire encouragent au vice, qui est un problème dans cette histoire. Où sont les adultes ? C'est-à-dire que tous ceux qui sont censés représenter l'autorité se sont plus ou moins défaussés. Les parents des agresseurs, qui sont aussi, qui ont une lourde responsabilité, le proviseur, et ensuite la police, parce qu'elle avait porté plainte, et que la police n'a pas non plus agi, ou la justice du moins. Donc ça montre aussi une société qui refuse d'assumer l'autorité. Et c'est parfaitement vrai, particulièrement vrai à l'époque, avec la culture pas de vague des proviseurs. Parce que si les propos rapportés sont vrais, il dit ça reste entre nous.
Est-ce qu'on va trop loin si on dit que dans le mécanisme qui a poussé au suicide de l'INSEE, il y a un peu du mécanisme qui a poussé à l'assassinat de Samuel Paty aussi, c'est-à-dire ce pas de vague, oui, cette façon de regarder de l'autre côté, oui, de ne pas soutenir, de ne pas comprendre,
oui,
de ne pas entendre, de ne pas réagir.
Le ça reste entre nous, si c'est vrai, c'est quand même très choquant, et c'est quand même l'idée que, bon, surtout, faut pas aller le dire au-delà de l'établissement, parce que moi, en tant que proviseur, je vais pas avoir de soucis avec mon administration. Donc effectivement, c'est très grave. Mais j'en reviens à votre question initiale. Ça pose quand même sur la question d'une société qui se défait, encore une fois, qui est personne à la marche blanche, c'est extrêmement choquant. Et encore une fois, incroyable. Les réseaux sociaux déculpent ça, mais il y a des agressions physiques. Hein. J'ai regardé le dossier, on lui jette de la nourriture, c'est pas seulement les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux sont un élément parmi d'autres. Et là, moi, j'avoue que j'ai une solution radicale, ce qui est peut-être pas la plus politiquement correct, mais je crois en effet qu'on devrait interdire les portables avant un certain âge, au moins dans l'institution.
Régleront peut-être une partie du problème, c'est-à-dire un moment de tranquillité peut-être pour les enfants le soir lorsqu'ils sont chez eux, mais le portable ne réglera pas le problème de l'enceinte de l'établissement et du harcèlement.
Ne réglera pas le problème du harcèlement, mais j'ai bien dit que c'était pas simplement un problème de réseaux sociaux et de portables. Mais si on peut s'épargner ça, je trouve que c'est pas mal avant un certain âge. Ça simplifie les choses.
Ça me rappelle une remarque que je fais régulièrement parce que cette information, elle a tellement de sens. C'est que tous les employés et les gens qui travaillent aux États-Unis à la fameuse Silicon Valley, tous les enfants de ces gens, donc la Silicon Valley qui est le temple de l'industrie, des nouvelles technologies, des téléphones portables, tout ce que vous voulez, de l'Internet, tous les enfants des gens qui travaillent à la Silicon Valley sont privés de téléphone et ne peuvent pas l'utiliser parce qu'ils ont, eux, plus conscience que tous les autres, peut-être, à quel point ça peut être nocif. Je voudrais que vous entendiez ce dernier extrait de Maître Debuisson aujourd'hui sur les plaintes qui seront déposées.
Betty a déposé plainte à plusieurs reprises. Betty a été entendue par ce principal rapidement qui, comme elle l'indiquait, lui a conseillé de punir sa fille et de lui supprimer son téléphone portable. Betty a envoyé tout un dossier médical catastrophique à l'académie avec la lettre que je viens de vous lire et rien n'a été fait. Et tout ça, cette lettre qui a été adressée, les dossiers médicaux qui faisaient état d'harcèlement, de souffrance psychique majeure, a été communiqué de nombreux mois avant le décès de l'INSEE. Et encore une fois, rien n'a été fait. Cette famille a été abandonnée pendant des mois et cette famille a été abandonnée après le décès de l'INSEE. C'est absolument inconcevable, et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de dénoncer ces faits-là et de déposer plainte. Déposer plainte d'abord contre M. Wagon, qui est le responsable de ce collège, qui savait la détresse de l'INSEE, auprès de qui l'INSEE s'est confié et qui n'a rien fait pendant des mois. Nous avons décidé de déposer plainte contre l'Académie de Lille, qui savait la détresse de l'INSEE et qui là aussi n'a rien fait, contrairement aux allégations fallacieuses que nous avons pu lire dans les médias hier et avant-hier. Nous avons décidé de déposer plainte contre les policiers en charge de l'enquête, qui savaient la détresse de l'INSEE. J'ai un formulaire qu'elle a rempli, qu'elle a communiqué aux policiers le jour de la plainte, trois mois et demi avant son suicide, dans laquelle elle indiquait les horreurs qu'elle subissait, hein, noir sur blanc, le fait que des photos, des messages circulaient sur les réseaux sociaux, qu'elle était victime d'insultes à caractère sexuel extrêmement souvent, qu'elle avait peur d'être seule, qu'on l'insultait, qu'on se moquait d'elle, qu'on la tapait très souvent. Un formulaire que j'ai dans les mains, un formulaire qui est absolument accablant et qui termine par « je me sens triste très souvent, je me sens seule très souvent, j'aimerais bien qu'on m'aide très souvent ». Malgré ce formulaire, malgré la plainte de 5 pages, malgré tous les éléments qui ont été communiqués, personne n'a rien fait. Et ce qui est très très important de souligner, c'est que l'INSEE n'est malheureusement pas un cas isolé.
Je disais tout à l'heure, Maître Bovis, à chaque fois qu'il y a un cas comme ça, on se demande si ça va pouvoir faire bouger les lignes. Mais là, je me dis que oui, vraiment concrètement, ça peut le faire. Pourquoi ? Parce que c'est peut-être la première fois, vous me dites si je me trompe, si vous avez vous d'autres souvenirs, mais je me dis que c'est peut-être la première fois que dans ce type d'histoire, les parents partent aussi vite à l'offensive, saisissent aussi vite la justice.
Non, c'est vrai qu'il y a
dans cela que je me dis qu'il y a quelque chose d'un peu inédit qui peut bousculer un peu les choses.
Non, ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu une réaction très, très vive des parents. Et franchement, il faut le féliciter, il faut le féliciter.
Très courageux.
On aurait voulu que ça ne se passe pas, mais en tout cas, c'est une réaction très courageuse, effectivement, et très rapide par rapport à d'autres dossiers. Mais
ils n'ont pas l'intention générale, de se laisser faire, ils ont bien raison.
Mais de manière plus générale, juste pour revenir sur un commentaire un peu plus général qui concerne d'ailleurs le harcèlement, c'est qu'à mon avis aussi, on a vidé de sa substance le mot sanction. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a le commencement d'un harcèlement, mais le gamin, il doit être soit collé, soit exclu temporairement, voire même définitivement si justement ce harcèlement qui commence est violent. Et il faut arrêter d'être laxiste justement avec des gamins en se disant « non, mais
il a franchi ». Il y a ce sentiment que tout est permis pour les harceleurs.
Mais en fait, mais d'ailleurs, ça, on pourrait le dire pour tous les délits. C'est que si vous dites « bon, bah, être honnête ou être malhonnête, ça ne change pas grand-chose », bon, bah alors pourquoi rester honnête ? Je vais être malhonnête. Pourquoi je n'enfreindrai pas la loi ? Je m'adonne à une facilité en me disant, bah tiens, je vais me défouler sur un gamin parce que je sais que je ne risquerai rien ou pas grand-chose. Je vais peut-être me faire convoquer chez le proviseur. Je vais peut-être avoir un avertissement. Mais ça n'ira pas plus loin. Il faut redonner à la sanction, un peu cette lettre de noblesse, c'est-à-dire que dès lors que vous franchissez une ligne rouge, vous êtes sanctionné. Et ça fera d'ailleurs des adultes peut-être aussi un peu plus responsables. Mais vous ne pouvez pas toujours mettre sur le même plan l'honnêteté et la malhonnêteté et faire en sorte que la malhonnêteté ne paie pas.
C'est de la non-assistance à personne en péril. En tout cas, c'est le mobile de la plainte.
Non, mais tout à fait. Je rejoins absolument ce qui a été dit. Je crois que c'est extrêmement important, y compris quand on a des débats entre guillemets sur les plus grands, c'est-à-dire sur les adolescents, voire même sur les adultes. Notre système pénal, il date en réalité dans sa conception d'un philosophe italien qui s'appelle Beccaria. Qu'est-ce qu'il dit Beccaria ? Il dit l'important, ce n'est pas la hauteur de la sanction. L'important, c'est sa certitude. Et quand vous êtes un gamin et que vous dites sanctionner, sans doute pas. Peut-être, mais sans doute pas. Eh bien, le sentiment que l'impunité, elle est là, elle s'incruste. Et si ensuite vous avez un système pénal, évidemment, qui dysfonctionne, elle s'incruste d'autant plus. Et pour des gamins, pour qui un an égale un mois, etc., avec une notion du temps qui n'est pas tout à fait la nôtre, c'est également la promptitude de la sanction qui compte. Si vous êtes sanctionné, même un petit peu, mais tout de suite, eh bien, à ce moment-là, l'interdit s'incruste. Dès le moment où vous avez une vision totalement laxiste de l'éducation, eh ben, c'est toute la société que vous mettez en péril. Et donc là-dessus, il faut aujourd'hui réellement penser l'école. Et j'y viens encore une fois, ça implique de soutenir les enseignants parce que c'est les premières victimes de ça. Et eux-mêmes n'osent pas sanctionner parce qu'ils savent qu'au-dessus, la hiérarchie va leur taper sur les doigts.
Le dernier volet que je voulais aborder, justement, il concerne l'inertie dont accuse cette famille l'éducation nationale. Cette inversion des valeurs absolument insupportable. Ce fameux pas de vague qui est en train de courir l'école sur tous les sujets. Pape Ndiaye, dont on attendait les premières déclarations après ce drame, était chez nos confrères de BFM ce soir. Écoutez, pour lui, il parle d'un échec collectif.
À l'évidence, il s'agit d'un échec collectif. La mort de l'INSEE, son suicide, c'est une tragédie. C'est une tragédie pour ses proches, c'est une tragédie pour l'éducation nationale et pour le pays, comme le suicide de n'importe quel jeune. Le repérage de la situation de violence et de harcèlement a été fait dans ce collège. Mais à l'évidence, on n'a pas été jusqu'au bout puisqu'on a abouti à une tragédie. Ça, l'enquête administrative va le dire à l'évidence. Et puis, encore une fois, nous en tirerons les conclusions. Le dispositif lui-même donne de bons résultats en matière de repérage et de prise en charge. Mais nous nous heurtons à des difficultés, en particulier la difficulté du cyberharcèlement dont je parlais à l'instant.
Sachez que Pape Ndiaye a annoncé chez nos confrères également qu'il avait contacté la famille. Eh bien, selon les parents et l'avocat, ce sont eux qui sont la source de cette information. Ils n'ont reçu aucun message, si ce n'est un SMS du cabinet du ministère après la conférence de presse qui s'est tenue aujourd'hui. Le bilan du ministre de l'Éducation est en train de devenir indéfendable, Yohann Uzaï.
Je ne sais pas concernant son bilan global, mais en tout cas, oui, on peut dire qu'il ne brille pas. Donc, très clairement, ce n'est pas un ministre de l'Éducation nationale qui est manifestement en train de faire progresser l'institution. Mais sur ce cas-là, d'abord, moi, je crois qu'il aurait dû aller sur place beaucoup plus rapidement, au moins téléphoner à la famille. Enfin, et évidemment, pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas ? C'est un peu incompréhensible, sincèrement. Il est complètement absent.
C'est autre chose qu'un manque de sens politique, peut-être ? Non, mais des priorités ?
C'est une forme de démission, en fait. Ça montre qu'il ne se saisit pas du problème à bras-le-corps. Il y a quelques mesures qui ont été prises. Il dit que ça porte ses fruits. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait une révolution en ce moment au sein des établissements scolaires et que cette révolution fasse que, tout d'un coup, il n'y ait plus 1 million d'élèves qui soient harcelés, parce qu'il y a 1 million d'élèves qui sont harcelés dans ce pays. C'est quelque chose de colossal. C'est quelque chose qui a une ampleur quasi indescriptible.
Et puis ne parlez pas d'échec collectif aux parents de l'INSEE.
Alors, c'est ce que j'allais vous dire.
Ne parlez pas d'échec collectif aux parents de l'INSEE.
C'est la suite de ce que j'allais vous dire. Ça n'est pas un échec.
Ça ne va pas passer.
Non, ça n'est pas un échec collectif.
Ça ne va pas passer.
Ça n'est pas un échec collectif. C'est l'échec de l'éducation nationale. Très clairement, dire que c'est un échec collectif, il englobe qui dans ce collectif ?
Non, c'est ça.
C'est l'échec.
Il ne faudrait pas englober la famille de l'INSEE.
C'est l'échec de l'éducation nationale. Et donc, c'est aussi quelque part son échec. Parce que, encore une fois, il ne donne pas le sentiment de se saisir de ce problème à bras le corps et de lancer un plan d'ampleur, parce que la situation est dramatique. 1 million d'élèves harcelés, je le rappelle, ça appelle un plan d'ampleur. Il ne prend même pas la peine de se déplacer sur place. Il n'a visiblement même pas appelé la famille, alors que tout le pays est évidemment étreint par l'émotion. C'est sincèrement incompréhensible et quelque part un peu indigne de la part d'un ministre de l'Éducation nationale.
Ce sont les hommes ou c'est le système qu'on met en cause dans cette affaire, Alexandre Devecchio ?
Je pense qu'il y a déjà des responsabilités individuelles. Quand on parle de responsabilité collective, c'est souvent qu'on veut se défausser. Et ensuite, il y a un système qui, effectivement, dysfonctionne. Mais il n'y a pas un début de réponse dans ce que dit Pape Ndiaye. Parce que, manifestement, il ne fait toujours pas le bon diagnostic. Il explique que ce qui a été mis en place fonctionne, qu'on a réussi à faire un repérage de la personne harcelée, mais qu'ensuite, on n'arrive pas avec les réseaux sociaux, donc on va s'occuper des réseaux sociaux. Donc là, il botte en touche et il ne s'attaque pas justement à cette culture pas de vague dont on parlait. S'il y a dysfonctionnement, je pense que c'est le dysfonctionnement de ceux qui sont censés représenter l'autorité, qui refusent de l'assumer et qui refusent de donner la sanction, comme ça a été dit tout à l'heure. Et là, il n'y a rien dans son discours là-dessus, donc c'est manifestement insuffisant, peut beaucoup mieux faire, je dirais, monsieur le ministre de l'Éducation.
Avant d'aller sur un plateau de télé, c'est vrai qu'il aurait peut-être pu aller au chevet de cette famille. Où sont les réponses concrètes du ministre, du président de la République ? C'est bien de manier les concepts de décivilisation, par exemple. Et mettons des choses en application aussi, peut-être, ailleurs.
C'est ça, exactement. Et quand on écoute le ministre là-dessus, on a toujours l'impression qu'il est trois coups en arrière. Et on se dit, est-ce qu'il pourrait passer à la vitesse supérieure? Parce que ce ne sont plus que des mots. Maintenant, il faut effectivement des actions. Et je me mets dans la peau même des parents aujourd'hui, par exemple, qui voient leur enfant qui est harcelé. Ils se disent, ben, qui on appelle exactement aujourd'hui? Que fait-on? Est-ce que si je vais finalement voir le directeur d'école, que va-t-il se passer? Pas grand-chose. Est-ce que j'appelle la police? On a l'impression que finalement, c'est le flou total. Non,
moi, je pense à l'affaire Maëlle. Il faut passer en direct sur une chaîne info. Ouais. En fait, pour se faire entendre. Quand on est squatté, vous passez en direct dans une chaîne info. Trois jours plus tard, il n'y a plus personne dans la maison. Vous êtes harcelé. Tiens, le harceleur quitte l'établissement quand ça passe sur les grands médias.
Non, mais donc, c'est vraiment toute la procédure qui est à revoir. C'est-à-dire, maintenant, on a parlé de harcèlement en ligne, notamment. Écoutez, ça date pas d'hier, tout ça. Ça fait des années qu'on en parle, ça fait des années que ça existe. Comme si on se réveillait un matin, on réalisait que ça existe aujourd'hui. Je pense que c'est un plan. Déjà, initialement, il y a on a vu qu'il y a des choses qui ont été faites, mais quand même, à chaque année, les parents, les élèves, les professeurs, je veux dire, est-ce que ce sont des chartes à signer et vous savez les conséquences? C'est-à-dire, vous franchissez tel pas, vous franchissez la ligne, c'est quoi les sanctions, combien de jours de suspension, qu'est-ce que vous risquez? Est-ce que vous risquez même limite d'être expulsé de l'école, de devoir changer? Je pense que les choses devraient être mises vraiment au clair. Mais c'est fondamental. Et je pense qu'avec cette histoire, avec ses parents, notamment, ils ont pointé quand même les failles, les défaillances à différents niveaux. Autant de l'institution, ils ont même parlé de la police, ils ont essayé tous les niveaux et on a vu les failles partout. Donc, essayons de voir justement ce qui manque et essayons de régler point par point.
Un tout dernier mot avant de passer à une toute autre affaire sombre à faire. Maître Bovis, on disait tout à l'heure, ce serait bien que ce soit maintenant systématique, que ce soit le harceleur qui soit changé d'établissement. Mais là encore, d'une certaine manière, c'est un peu poussière sous le tapis, parce que le harceleur, dans un autre collège, peut-être qu'il deviendra lui-même harceleur d'un autre enfant ou qu'il sera harcelé par d'autres. Enfin, on remet d'une certaine manière à chaque fois des pièces dans la machine. Tant qu'il n'y aura pas d'endroit où mettre ces enfants ultra-violents, je pense à des centres fermés ou je ne sais pas comment on peut appeler ça pour des mineurs, des centres pour des mineurs, ils seront toujours à l'école. Et il y aura toujours cette incapacité de les gérer. Donc en fait, il faut qu'on avance sur des endroits où placer ces jeunes-là pour mieux les gérer et mieux les faire sortir peut-être de ces déviances, pourquoi pas psychologiques pour certains.
Là, c'est peut-être ma vision un peu angélique des choses, mais j'ai plutôt tendance à croire, du moins à espérer...
Il faut les sortir du système.
Qu'un gamin qui est sanctionné une fois par une exclusion peut être amené à réfléchir à ses actes et peut-être amené à retrouver...
C'est quoi, ça vient rapidement, voilà. En tout cas.
Oui, mais après, il peut devenir celui qui était le harceleur dans le collège d'à côté. C'est lui qui a harcelé les autres enfants. Et bien, on va tous se jeter sur lui. Vous savez, le serpent se mord la queue. Le serpent se mord la queue parce que ça va savoir que le harceleur qui a changé de lycée était harceleur dans un autre endroit. Donc, moi, je pense qu'il y a de fortes chances pour que ce gamin devienne lui-même harcelé. Donc, on n'en règle rien, en fait.
Non, rien. En fait, si vous voulez, il y a deux philosophies. Soit on pense qu'effectivement, un gamin peut être rattrapé assez rapidement et dès lors qu'il est sanctionné avec une sanction automatique, dès lors qu'il enfreint la loi, dès lors qu'il harcèle un autre enfant, il se retrouve sanctionné, on peut espérer qu'il retrouve le droit chemin. Ça, c'est la première philosophie. La deuxième, effectivement, c'est la vôtre, peut-être, consiste à dire que justement, un enfant qui commence à harceler, a priori, n'est pas rattrapable et donc il doit être isolé.
Il est rattrapable, mais par des gens spécialisés qui connaissent ce métier, qui savent leur parler, qui savent les gérer, et pas des CPE, des proviseurs qui ne comprennent pas ce qui se passe
et
qui sont incapables de réagir. Il faut des éducateurs spécialisés pour justement réhabiliter ces gamins et les remettre dans un lycée public, normal, dans l'enseignement classique.
C'est un manque de moyens, mais ça me permet de rebondir sur une chose que vous avez dit que je trouvais très intéressante sur le rôle des médias. Puisque la plupart du temps, vous savez, on dénonce les médias en disant la justice ne se rend pas sur les plateaux télé, que ça. Mais il faut aussi rappeler le nombre de fois où justement les médias contribuent à faire exploser ce genre d'affaires et à faire en sorte que justement des affaires aboutissent.
Mais il ne s'agit pas de se tirer la couverture, c'est juste un constat sur des grandes affaires comme ça.
Que les politiques se saisissent enfin de certains sujets. Parce que quand vous parlez justement du ministre de l'Éducation nationale qui n'envoie pas de message d'ailleurs, c'est son cabinet, qui envoie un message après la conférence de presse, c'est pas sérieux deux minutes. Et d'ailleurs, ça frôle l'indécence même, d'ailleurs, quand on parle de responsabilité collective. Mais au moins, on peut se dire qu'on a un ministre qui se saisit de ce dossier. Sans la presse, peut-être qu'il ne l'aurait pas fait. Mais si vous voulez, ça pose aussi un autre problème. C'est que justement, ça ne devrait pas être le cas. Normalement, la justice devrait arriver assez rapidement pour qu'on empêche justement ces choses-là d'arriver à ce point.
Il est 23h, on va très vite passer au JT, un dernier mot.
Simplement, mais on oublie tout le côté prévention aussi. Oui. Peut-être qu'il faut expliquer aux élèves ce que ça produit le harcèlement. J'ai pas le sentiment qu'il y ait beaucoup de prévention dans les classes. C'est un volet important quand même avant de penser aux sanctions qui sont complètement nécessaires.
Vous voyez, votre camarade de classe s'est suicidé et que vous continuez d'envoyer des messages en disant
D'accord, évidemment. Mais globalement, quand même, il devrait y avoir des messages adressés aux élèves. On devrait aller leur expliquer concrètement.
J'ose espérer que ça existe.
Mais je ne suis pas certain que ça existe.
Que ça existe quand même,
je ne crois pas qu'il y ait des préventions.
Il y a des numéros verts.
Oui, d'accord, mais ça ne règle pas tout. Il faut aller dans les téléphones.
La prévention sans la sanction. Ça ne sert pas à grand-chose.
Il faut que
mais
ça
comme d'ailleurs, ce qui est vrai, c'est que la sanction sans la prévention, ça ne marche pas.
On fait un point sur l'actualité et puis on vous montrera, on parlera de cette vidéo absolument accablante où l'on voit Mohamed Awas frapper sa femme à Montpellier dans un centre commercial. Mathieu Devez d'abord.
Le gouvernement veut mieux accompagner les fonctionnaires atteints de maladies chroniques. Stanislas Guérini a lancé aujourd'hui un plan pour mettre fin à un tabou sur le lieu de travail. Selon le ministre de la Transformation et de la Fonction publique, seule la moitié des actifs atteints d'un cancer osent en parler à leur employeur. L'objectif du plan est triple, accompagner les agents malades, les aidants et renforcer la prévention. L'aviation civile demande aux compagnies d'annuler un tiers de leurs vols à Paris-Orly mardi. Les contrôleurs aériens seront en grève contre la réforme des retraites. 20% des vols devraient être annulés à Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux et Nantes. Le premier aéroport français, Paris-Charles de Gaulle, n'est en revanche pas concerné. Enfin, au football, Igor Tudor ne sera plus l'entraîneur de Marseille la saison prochaine. C'est Pablo Longoria, le président du club, qui l'a annoncé lors d'une conférence de presse. Selon lui, l'Olympique de Marseille accepte et respecte le souhait de l'entraîneur croate. Igor Tudor quittera Marseille à l'issue d'une saison terminée à la 3e place de Ligue 1.
Les images accablantes de Mohamed Awas, le rugbyman de Montpellier au rugby, qui a frappé sa femme, vous le savez très certainement, le 26 mai dans un centre commercial. Il a été condamné à un an de prison ferme. L'homme de 29 ans qui n'ira pas en prison, on vous le disait hier, grâce à une peine aménageable. Iman Awas, sa femme, n'a pas porté plainte contre lui. Sur les images de vidéosurveillance de ce centre commercial Polygone de Montpellier, on en apprend un peu plus sur l'agression. Regardez. C'est accablant, Maître Bovis. On va revoir cette image. Et pourtant, l'épouse n'a pas porté plainte. Elle a fait part de son soulagement hier de ne pas voir son mari partir en prison. C'est le paradoxe de l'âme humaine.
Oui, exactement. Et c'est une vraie question de société qui se pose. C'est-à-dire que lorsque vous avez une victime qui demande à un magistrat de ne pas envoyer son bourreau, on peut appeler ça un bourreau, hein, son bourreau en prison, que doit faire le magistrat? Est-ce qu'il doit écouter la parole de la victime ou est-ce qu'il doit appliquer la loi? Est-ce qu'il doit être ferme, justement? Et on parlait tout à l'heure de sanctions fermes. Est-ce qu'il, du coup, doit appliquer une sanction ferme et aller, du coup, contre la volonté de la victime?
C'est un sujet. Même allée, non seulement elle l'a défendue, mais elle a justifié en disant notamment, alors j'ai plus les mots exacts, mais elle a rappelé qu'il avait été très affecté par le passé, par un proche qui était mort à cause de la cigarette, et donc parce qu'en fait s'il lui a mis des coups, c'est parce qu'il l'a vu fumer devant un centre commercial. Hein. Elle veut pas l'accabler, dire oui, mais vous comprenez, quand il était jeune, il a vu quelqu'un mourir, il a connu quelqu'un qui est mort à cause de la cigarette, donc je peux comprendre, excuser, expliquer son geste.
C'est ça.
Ça fait partie des nombreuses déclarations qu'elle a faites pour le réhabiliter.
Mais même pire que ça, c'est que il s'est dit, si elle est capable de mentir sur la cigarette, elle est peut-être capable de mentir sur autre chose.
C'était la suite des propos de Mohamed Awas.
Ce qui est juste effrayant, parce que d'ailleurs.
C'est pour ça qu'il a pété les plombs, comme on dit.
Enfin, petite parenthèse, en tant que sportif professionnel dans le rugby, on apprend quand même un certain nombre de valeurs, un certain nombre aussi de maîtrise de soi.
Bien sûr.
Donc, c'est ce qu'il voulait. Ça pose aussi une double question sur la personnalité de ce monsieur. Maintenant, après, je ne sais pas si on peut parler d'emprise, mais en tout cas, sur le sentiment de culpabilité que peut ressentir une victime, on le voit dans de nombreux dossiers, évidemment de violences conjugales notamment, les victimes qui ne veulent pas que justement leur bourreau aille en prison parce qu'elles les aiment, parce qu'elles pensent évidemment que c'était un faux pas, qu'il va se rétablir, etc. Donc, c'est un sujet qui est compliqué et pour autant, je reste convaincu, et c'est le rôle des procureurs d'ailleurs, je reste convaincu que les magistrats doivent suivre plus régulièrement les réquisitions des procureurs.
Ce qui n'a pas été le cas dans cette affaire. La réquisition, c'était 18 mois, je crois, et il a pris 12 mois à ménager.
Exactement, parce que les procureurs de la République, notamment, contrairement aux magistrats, voient un nombre d'affaires incalculables passer, parce que la plupart du temps, vous savez, il y a beaucoup d'affaires qui ne vont pas au tribunal, justement, et qui s'arrêtent en cours parce que les victimes retirent leurs plaintes, parce que...
Des conciliations.
Il y a des conciliations, etc. Mais donc toutes les affaires ne vont pas devant les tribunaux. Mais les procureurs voient la réalité, notamment aussi des violences. Et
elle a alerté la procureure.
Et la procureure, elle a alerté. Et donc les procureurs de la République ont tendance souvent à avoir la main lourde. Et les magistrats, au contraire, peuvent être attendrir par tel ou tel discours, ou du moins par les volontés de la victime.
Je rappellerai dans un instant d'ailleurs les propos de la procureure au moment de la réquisition, parce que c'est, là encore, ça dit beaucoup de choses. Juste un mot, Karima, donc cette femme, Iman Awas, elle n'a pas le droit de fumer, elle n'a pas le droit de travailler, donc ça le dérangeait aussi qu'elle ait du travail. C'est une femme qui est assujettie, en fait, d'une certaine façon.
Mais c'est une victime. Je suis désolée, mais...
Mais elle ne se considère pas telle qu'elle.
Oui, mais c'est souvent dans le schéma des violences conjugales. Hein, c'est un peu... Vous allez entendre souvent des femmes qui vont défendre l'agresseur dans ce cas-ci. Et c'est ça parce qu'elles intériorisent un peu tout ça. Elles vont même prendre, dans certains cas, la culpabilité. Elles ont peur parfois... Je ne peux pas parler effectivement pour ce cas précis nécessairement parce qu'il y a toutes sortes de variables. Mais globalement, quand on regarde le schéma des personnes qui sont victimes de violences, elles intègrent tout ça. Elles sont dans ce processus de victimisation totale et elles ont peur des coups pour la suite. C'est-à-dire que si je ne réponds pas, si je ne fais pas telle action, peut-être que ça va être pire. Elles veulent protéger leurs enfants a priori. Elles veulent se protéger. Et souvent, on entend hein, pourquoi les femmes ne le quittent pas, pourquoi elles ne le quittent pas. Vous savez que c'est dans un contexte de rupture. Il y a plusieurs femmes victimes de violences conjugales qui risquent littéralement la mort. C'est dans ces moments-là où elles sont tellement vulnérables que certains spécialistes vont dire si c'est possible, quand vous faites la rupture, essayez de ne pas être, disons, physiquement à cette place-là, d'être dans un endroit où vous êtes protégé, parce que les risques de violence, les risques pour votre vie et celle de vos enfants, ben, il y a une véritable menace.
On ne peut pas avoir une lueur d'optimisme dans un cas comme ça, se dire... d'être un peu naïf, dire peut-être est-ce qu'on peut croire au cas unique, au fait unique, au fait qu'il puisse se repentir simplement et ne jamais recommencer.
Je
pose la question
images,
bien naïvement. Vous comprenez le sens de ma question.
Absolument, je comprends ce que vous voulez dire, mais quand on regarde ces images, moi ça me glace le sang, ça me dégoûte.
Il lui court après, il lui fait un énorme croche-pied, grosse claque dans le visage.
De gérer sa jalousie, c'est... Ça devient presque irrationnel et l'émancipation féminine devient un problème. L'émancipation, écoutez, après, ça devient n'importe quoi. Elle ne supporte pas la cigarette, ne supporte pas qu'elle travaille, ne supporte pas qu'elle ait un réseau social. Ce qu'on veut, c'est isoler la victime, isoler la femme, qu'elle n'ait aucun réseau autour.
Exactement.
Et qu'elle soit vraiment sous l'emprise de la personne. Et imaginez, s'il n'est pas capable de gérer maintenant, est-ce qu'il a fait un travail sur sa gestion de colère, sur ses accès de colère?
Je crois qu'il y a une injonction de soins, hein, quand même, qui a été prononcée, maître. A priori, il doit
se. J'espère.
Son avocat rappelait, en tout cas, son avocat rappelait après le jugement qu'il faudra qu'il fasse un gros travail sur lui-même. En attendant, ce monsieur, Mohamed Awas, il a repris le cours de sa vie avec sa femme, avec ses enfants. Et oui. La justice n'a pas pris la mesure de ce qui s'est passé, selon vous ?
Moi, je pense que.
On fait un petit tour de table, je reviens vers vous, maître.
Ça a été dit, puisque le procureur de la République avait.
Est-ce qu'il devrait être en prison aujourd'hui, selon vous ?
Probablement. Pour répondre à la question que vous avez posée tout à l'heure, je suis quelqu'un qui veut faire la différence entre des violences, une gifle. Pour le coup, là, c'est pas une gifle. C'est effectivement un geste d'une brutalité inexcusable.
On parle d'un homme qui fait 120 kilos, oui, qui est rugbyman professionnel.
Il aurait pu la tuer.
Quand un rugbyman professionnel...
Il aurait pu la tuer. Donc ça, c'est un geste d'une extrême violence.
Ses mains sont presque une arme en soi.
Et ensuite, ça s'inscrit manifestement en plus. C'est peut-être un des tabous dans une vision... et une idéologie. On voit bien qu'il a un problème avec les femmes, qui ne veulent pas qu'elles fument, qui ne veulent pas qu'elles aient leur autonomie. Donc c'est quelque part un geste réfléchi, pas totalement spontané. Ça dit quelque chose de la relation qu'il a avec elle et de la relation aux femmes en général. Donc oui, je pense que la justice aura dû suivre les réquisitions du procureur et que la peine aura dû être... plus lourd dans ces cas-là,
Iman Awas n'a pas porté plainte contre son mari. Elle est soulagée. Je reprends les mots qu'elle a utilisés, soulagée et heureuse voir que Mohamed Awas rentrait à la maison hier.
De Stockholm, où elle partage la vision de son mari, mais il n'empêche qu'il a commis un crime qui a été filmé et donc que la justice...
Et c'est un mauvais signal de voir que même un comportement aussi violent dans un temps où les violences contre les femmes sont une cause nationale, en tout cas c'était la cause nationale du précédent quinquennat, et c'est toujours une cause majeure, un acte aussi violent n'entraîne pas une réponse dissuasive en fait.
Le problème, si vous voulez, on y revient, c'est l'application des peines, et en même temps l'idée qu'on n'applique pas une peine de prison quand elle est inférieure à 12 mois, ce qui est idiot, parce qu'on le sait, on voit les Pays-Bas, les petites peines de prison, ça peut être dissuasif, donc le condamné à 30 ans...
Il aurait pu même avoir une injonction d'éloignement. Hein.
Mais le condamné à 30 ans de prison n'est pas très utile. En revanche, le fait qu'il fasse réellement de la prison, ça aurait été utile. Et là, on tombe pour le coup sur une défaillance de la loi. Ensuite, pour vous répondre sur, oui, non, mais attendez, elle n'a pas voulu porter plainte.
Oui.
Et vous savez, au pénal,
la vérité.
Au pénal, on défend la victime, y compris contre elle-même, et on défend contre la société contre son agresseur. Et donc, ce faisant, il n'est pas délirant, justement, même si vous n'avez pas de plainte, que le procureur décide de poursuivre et de continuer. Là, très clairement, on est
alors
dans
un cas... Alors, on se parle, le parquet peut encore faire appel ou pas ?
C'est normal.
10 jours.
C'est 10 jours. Donc, c'est pas impossible que le parquet fasse appel dans les 8 jours qui restent.
Parce que cet homme est dangereux pour sa femme, il est dangereux pour la société en général.
Après, je vous dis, c'est presque philosophique parce que cette femme, elle exerce sa liberté individuelle en ne portant pas plainte et en voulant que son mari rentre à la maison bien qu'il l'ait frappé. Bien qu'il l'a frappée, est-ce qu'on peut la protéger malgré elle, Johan et Maître Bovis, votre réponse
à ça. C'est aussi le.
Oui, mais là, moi, je parle de cette femme qui est quand même sous la menace éventuelle d'une récidive de son mari.
Il fera ça avec d'autres femmes.
Est-ce qu'on peut la protéger malgré elle?
Elle
ne l'a pas demandé. Est-ce qu'on peut le faire malgré elle? Est-ce que la justice doit aller outre la volonté de cette femme et dire vous n'avez pas conscience qui vous arrive?
Julien, je vous réponds. Elle, c'est son problème à la limite, mais par
contre. Non, c'est pas son problème. Si elle est sous emprise,
il menace d'autres femmes. Très probablement. Donc,
bah non, c'est ça ne rien, ça.
Non, mais c'est-à-dire que
pourquoi
il menace d'autres femmes
comme ça, il y a peu de raisons qu'il se comporte autrement avec d'autres. Si demain,
mais les autres femmes ne sont pas son épouse. Lui, ce qu'il veut, c'est que son épouse lui appartienne.
Mais donc, demain, il divorce, s'il n'est pas puni, il fera la même chose avec une autre. Donc, il s'agit de protéger avant tout la société.
Et c'est que dans ce cas-ci, vous avez des preuves, vous avez vraiment une image. Souvent, dans la violence conjugale, bon, oui, peut-être que la victime va avoir des bleus, des choses comme ça, mais c'est rare qu'on ait vraiment des images de l'agression.
Non, non, mais là, la question, c'est vraiment, est-ce que la justice doit outrepasser la volonté de la victime et lui dire, madame, vous n'avez pas conscience de ce que vous demandez ou de ce que vous ne demandez pas, plutôt, là, et la justice est là pour vous protéger au-delà de votre volonté qui n'est pas, sur le moment, lucide.
Mais c'est une vraie question. Est-ce que la justice et la société doivent protéger cette femme, la protéger d'elle-même, en réalité, parce qu'elle est amoureuse, sous emprise, enfin, je ne sais pas quel est le bon qualificatif, mais en tout cas, elle n'a manifestement pas pleinement conscience du danger qui l'attend, parce que tous les spécialistes, toutes les associations vous diront qu'un homme qui frappe une fois à 90% de chances de frapper une seconde fois. Quand on a frappé une fois, c'est plus facile, hélas, de refrapper une seconde fois. Donc, effectivement, est-ce que la société et la justice doivent protéger cette femme? Moi, j'ai tendance à répondre oui. J'ai tendance à répondre oui, effectivement. Le procureur, il est là pour ça. Il formule des réquisitions au nom de la société parce que cet homme est un danger pour cette femme, en l'occurrence, pour cette femme à l'instant T. Mais je suis d'accord avec Alexandre Devecchio, probablement un danger pour l'ensemble de la société. Donc, évidemment, il faut le condamner, même contre la volonté de son épouse. C'est une certitude.
Maître Bovis, encore un ou deux mots avant de parler d'autre chose. Est-ce qu'il faut faire peut-être... Une expertise d'emprise sur les victimes qui ne veulent pas accabler le bourreau, peut-être qu'on pourrait penser à ça, dire « Madame, vous n'êtes pas capable de penser par vous-même dans un moment comme celui-là, et cette expertise va nous permettre de dire si vous vraiment vous êtes sous l'emprise de cet homme, il faut vous en défaire, est-ce qu'on doit en passer par là ? Est-ce que la justice pourrait, je ne sais pas, prononcer, pourquoi pas, des séparations provisoires ? En fait, la question c'est jusqu'où on s'ingère dans la vie des gens pour leur bien ?
Je ne sais pas si c'est le cas dans ce dossier, mais dans beaucoup de dossiers de violence conjugale, effectivement, il y a des expertises qui sont menées sur chaque partie, aussi bien chez l'auteur de l'infraction que la victime.
Là, ça n'a pas été le cas chez cette dame.
Oui, ça n'a pas été le cas. Mais en tout cas, pour la victime, effectivement, il y a une expertise pour voir à quel degré il y a une emprise sur la victime, pour voir son autonomie aussi d'action et sa conscience de ce qui se passe, en fait, de la réalité des choses, et de voir si elle tient un discours sensé, raisonné, ou si au contraire elle est sous emprise et elle est toujours hantée par ce sentiment de culpabilité qui peut l'amener soit à ne pas continuer l'action, soit du moins à regretter de vouloir emmener, enfin d'avoir.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette ingérence éventuelle d'une justice pour protéger les gens qui ne seraient pas conscients, qui seraient dans une forme de déni de ce qui les entoure?
Non, mais je pense que ce serait une ingérence plutôt saine dès lors que le procureur de la République, et on le disait tout à l'heure, a une autonomie d'action. C'est-à-dire que l'action publique, lorsqu'elle est engagée, elle peut être engagée notamment par le procureur de la République, qui peut continuer à poursuivre l'auteur d'une infraction, justement pour défendre les intérêts de la société. Et c'est le rôle du procureur de la République. Et donc, à travers ce rôle-là, il peut y avoir des expertises menées pour effectivement voir si la victime est consciente ou non de ce qui se passe et de ce qu'elle a vécu. Notamment parce qu'il y a aussi ce phénomène-là, on le voit aussi chez les victimes, qui consiste à effacer, une sorte dans la mémoire, d'effacer ce qui s'est passé, de on va dire relativiser en se disant « ce n'est pas si grave ». c'était pas si grave, c'était pas forcément une gifle, il m'a un peu bousculé, il était énervé.
Et dans un processus comme celui-là, vous pouvez même aller jusqu'à dire je l'ai un peu cherché, finalement, c'est ma responsabilité, je l'ai énervé, j'aurais pas dû, j'ai fumé alors qu'il me l'avait interdit, j'aurais pas dû, c'est de ma faute.
Exactement. Mais là aussi, c'est aussi le rôle des avocats à ce moment-là, hein, lors des audiences. Soit de ramener la victime à un discours plus sensé, plus raisonné, ouais. En tout cas, du moins, d'accompagner la victime aussi, voir des experts, voir des psys pour qu'il y ait tout un travail de fait. Mais en tout cas, c'est un travail, là, pour le coup, je reprends le terme de tout à l'heure, collectif, voilà, entre le procureur et les avocats.
Pour conclure, je disais que j'allais vous rappeler les mots de la procureure à la fin du réquisitoire. Elle a parlé de risque majeur, de réitération. Même ça, ça n'a rien déclenché chez la victime. La conclusion de la procureure pendant le réquisitoire, c'était « Je suis inquiète pour madame, rien ne l'arrête ».
Peut-être un dernier mot de la fin. Le nombre d'interventions policières en 2022 qui concernent les violences conjugales, c'est 400 000. 400 000 interventions policières.
Qu'est-ce qui se passe, Karim Mabrouk, pardon?
On était interpellés.
Ah, non, par quoi, pardon?
Le nombre d'interventions policières en 2022, c'est 400 000. 400 000 interventions policières qui concernent que des violences conjugales.
Voilà. Bon.
Le double à peu près qu'en 2021.
On avance. Tout autre sujet politique, un peu de politique. Il fait bon être responsable du Rassemblement national ces jours-ci, cher Yoann Uzaï. Après avoir vu le président de la République en personne recadrer Elisabeth Borne pour avoir dénoncé la filiation idéologique du parti de Marine Le Pen avec Philippe Pétain, les élus lepénistes peuvent cette fois se réjouir des propos de la présidente de l'Assemblée nationale. Yael Braun-Pivet, qui a montré toute son affection dans les colonnes du Figaro aujourd'hui à son vice-président, qui n'est autre qu'un député du Rassemblement national, Sébastien Chenu, n'est pas un bon, mais un très bon vice-président de l'Assemblée nationale. Tout cela a étonné beaucoup, a surpris surtout à gauche. Vous l'imaginez, on verra quelques réactions dans un instant. Mais d'abord, question simple, pourquoi la présidente de l'Assemblée nationale fait-elle les louanges du député RN vice-président de l'Assemblée, Sébastien Chenu?
Ça ne m'étonne pas qu'elle le pense, parce que effectivement, je sais qu'ils ont de très très bonnes relations. Depuis qu'elle est elle-même présidente et Sébastien Chenu vice-président, ils s'entendent très bien, ils travaillent ensemble, ils échangent régulièrement, ils s'apprécient véritablement. Donc là, Yael Braun-Pivet dit vraiment ce qu'elle pense. Ce qui m'étonne, c'est qu'elle le dise publiquement, parce que effectivement, on se rend compte que... vous savez, la gauche accuse beaucoup la Macronie en ce moment d'ouvrir les bras au Rassemblement national, de faire la courte échelle à Marine Le Pen, etc. Donc je suis un peu étonné qu'Yael Braun-Pivet dise des choses comme ça publiquement, mais je sais effectivement qu'elle le pense et qu'il y a entre eux, non pas une amitié, ils ne sont pas amis, mais qu'il y a entre eux une relation,
complicité.
Une complicité qui est sincère et qui est réelle. Les deux le disent d'ailleurs et l'assument extrêmement bien. Quand vous discutez avec l'un ou avec l'autre, ils vous disent oui, qu'ils travaillent très bien ensemble.
Ça change des députés LFI qui ne veulent pas jouer au football avec des députés RN. Il y a certains politiques qui sont capables de comprendre qu'au-delà des clivages, il y a des êtres humains et qu'on peut parfois ne pas partager les mêmes idées et s'entendre par ailleurs. C'est un tapis rouge qu'elle déroule. J'arrive tout de suite, Alexandre, moi avec Benjamin d'abord. C'est un tapis rouge qu'elle déroule au vice-président RN de l'Assemblée nationale.
Je ne sais pas si elle lui déroule un tapis rouge, mais pour être observateur du Parlement depuis un certain temps déjà... objectivement, c'est vrai. Enfin, je veux dire,
qu'est-ce qui est vrai?
C'est quoi un bon vice-président? C'est quelqu'un qui tient la séance, c'est quelqu'un qui donne la parole de manière relativement équitable à l'opposition, à la majorité, qui suit les règles.
Vous allez dire qu'il est meilleur vice-président qu'elle est présidente.
Et qui est respecté. Et il l'est. C'est-à-dire que c'est un très très bon vice-président de l'Assemblée nationale.
D'accord.
Et donc, qu'il soit RN, qu'il soit l'AFI, etc., l'important quand vous êtes au perchoir, c'est que ça ne se voit pas. Et ça ne se voit pas. Et donc, ce faisant...
C'est comme un bon arbitre de foot.
L'objectif, exactement. L'objectif du Rassemblement
national...
Moins on le
voit, mieux ça se passe.
L'objectif du Rassemblement national, c'était de montrer qu'ils étaient capables de gérer, qu'ils pouvaient être dans une stratégie de normalisation. Ça marche parfois pas bien, parfois bien. Mais il est vrai que pour Sébastien Chenu, ça a très très bien fonctionné. C'est un très bon vice-président. Qu'elle lui rende hommage, entre guillemets, est-ce que c'est maladroit, est-ce que c'est pensé, etc., d'un point de vue politique, je suis pas sûr que ça aide aujourd'hui la Macronie.
Il ne serait pas RN, on n'en parlerait pas. Ce serait simplement la complicité entre deux êtres humains, mais dans la séquence actuelle.
C'est pas
dans la séquence actuelle, si ça nous dit, ça surprend un peu.
Et incroyable.
Mais non, c'est dans la séquence actuelle. Je mets ça dans un contexte.
C'est dans l'époque de Maboul dans laquelle on vit.
Peut-être aussi, oui. Peut-être aussi. Alexandre, avant que vous réagissiez, je voudrais juste que vous voyez trois réactions à gauche. Olivier Faure, premier secrétaire du PS, député PS également, bien sûr, qui réagit. Le président de la République recadre, il y a beaucoup d'acronymes, hein, recadre sa première ministre parce qu'elle ose rappeler la filiation vichiste du RN. La présidente de l'Assemblée fait l'apologie de son vice-président RN. Renaissance déroule le tapis rouge, tiens, il utilise ce terme aussi, à l'extrême droite. Pour Thomas Porte, lui député LFI, la Macronie marche main dans la main avec l'extrême droite, elle ne se cache même plus. Donc là, on est incapable de faire la différence entre les idées politiques et les êtres humains qui sont derrière. Sérieux, dit Clémentine Autain, elle aussi députée LFI, ça finit par se voir que vous avez choisi votre opposition préférée, quitte à vous livrer à un jeu terriblement dangereux pour le pays. C'est terriblement dangereux pour le pays. Ah oui, j'oubliais le tweet du Parti communiste français. Le RN vote contre la hausse du SMIC, contre la hausse de l'ISF, pour la hausse des loyers de 3,5%. Ça mérite bien un sucre, dit le Parti communiste français. La gauche qui goûte assez peu, hein, on l'a compris, cette déclaration d'Edmond Pivet.
Il manque une musique dramatique derrière les tweets.
On aurait pu, c'est vrai. Pardon. C'est,
pour en remettre dans le contexte des déclarations, en fait, c'est un article du Figaro qui décrit justement les relations, ça parle de Sébastien Chenu, mais en fait, de tous les députés RN à l'Assemblée nationale avec leurs collègues, y compris avec des collègues LFI. Et d'ailleurs, on voit dans l'article que finalement, en privé, ils peuvent se donner des coups de main, même avec la France Insoumise. Voir maintenant, il y a des textes qui ont été votés avec la droite et le RN. Donc ça montre aussi que ce cordon sanitaire ne tient plus le bout. Si vous voulez, d'abord, enfin, on distingue les personnes de leurs idées. Je pense que c'est une bonne chose. Et ensuite, même les idées. On voit bien que l'idée que le Rassemblement national serait un parti anti-républicain, anti-démocratique, voire fasciste, ne tient plus debout. Et il le prouve à l'Assemblée nationale. Et en plus, je pense que pour le grand public, la crainte n'était plus tellement celle-ci, effectivement. Comme l'a dit Benjamin Morel, la crainte, c'était que le Rassemblement national soit un parti d'amateurs. Là, il prouve qu'il est globalement pas plus amateur que les autres. Donc oui, c'est plutôt une bonne opération pour eux, et c'est plutôt bien qu'on sorte de ce manichéisme-là, qu'on ait des vrais débats politiques sur le fond. On a le droit de ne pas être d'accord avec le Rassemblement national, mais je pense que expliquer que ce sont des sous-hommes infréquentables, c'est un discours qui ne passe plus aujourd'hui.
Oui, Maître Boyce.
Moi, je préfère Yann Boll privé qui félicite Sébastien Chenu pour son travail plutôt qu'un député LFI qui joue au foot avec la tête d'Olivier Dussopt dessus, quoi. Voyez.
D'ailleurs, ce député, en l'occurrence, c'est Thomas Porte, dont on a vu le tweet il y a un instant.
Je pense que Thomas Porte, à mon avis, devrait faire d'autres choses plutôt que de lancer des polémiques inutiles. D'ailleurs, d'éviter peut-être d'en créer.
C'est pas fou. La stratégie de Marine Le Pen à l'Assemblée, donc payante, cher Johan.
Oui, elle est plutôt payante, effectivement. On voit bien d'abord qu'elle progresse dans les sondages, ça c'est une indication, sa cote de popularité, sa cote de crédibilité. Les sondages pour l'élection présidentielle qui ne veulent pas dire grand-chose, on est à 4 ans, mais quand même, elle est en progression aussi, donc il y a une réelle progression. Et puis à l'Assemblée nationale, effectivement, elle a réussi à... Elle est en train de donner l'impression qu'elle peut très facilement s'insérer dans toutes les institutions qu'ils sont quelque part prêts à gouverner.
Est-ce quand vous avez, Johan, mais quand vous avez hier donc le président de la République lui-même qui fait la promotion du Rassemblement national à travers cette déclaration où il renouvelait sa confiance.
Il en fait pas la promotion, c'est pas.
Oui, enfin, il normalisait de nouveau le Rassemblement national.
Il dit en réalité que le Rassemblement national.
Ça n'a fait pas de mal au RN, ce qu'il a dit hier, le président de la République.
Non, vous accordez
là-dessus.
Très clairement, mais il dit en quelque sorte que Marine Le Pen, selon lui, n'est pas du tout prête à gouverner parce qu'elle n'a pas les épaules, parce qu'elle n'est pas crédible, parce qu'elle a des lacunes, etc. Et que c'est cela qu'il faut expliquer aux Français, mais arrêtez de dire que le Rassemblement national est un parti pétainiste ou un parti fasciste, nazi ou tout ce que vous voulez. Il dit qu'il faut combattre le Rassemblement national sur ses idées parce que ce sont ses idées qui sont dangereuses. Et Marine Le Pen n'est pas dangereuse parce qu'elle est fasciste, elle est dangereuse parce que ses idées sont dangereuses pour la France. C'est ça que dit le président de la République.
La vérité, c'est que les opposants du RN ne savent plus par quel biais l'attaquer.
Bah évidemment, d'une certaine manière, parce que la dédiabolisation aujourd'hui, elle est quasiment achevée dans une grande partie de l'électorat. Et de l'autre côté, la crédibilisation, c'est ce qu'essaie de construire Marine Le Pen. Et là, en effet, Sébastien Chenu a été un élément essentiel. Souvenez-vous, lors de l'élection de Yael Braun-Pivet,
lorsque on pense qu'il va y avoir un troisième tour pour son élection et que Sébastien Chenu renonce à sa candidature, entraînant son élection. Donc d'entrée, ils ont su jouer justement une opposition
ferme. Ils étaient déjà camarades.
Mais non, pas forcément. L'opposition est ferme et résolue. Regardez la réforme des retraites, ils voient toutes les...
Ils se connaissaient personnellement avant d'arriver à l'Assemblée nationale chacun ?
Alors ils étaient tous les deux bien sûr députés dans la précédente législature.
Ils étaient déjà pas amis, mais
mais ils ne sont pas amis.
Oui, je ne sais pas. Et d'ailleurs, on s'en fiche qu'ils soient amis ou pas.
Ils précisent bien tous les deux qu'ils ne sont pas amis dans le sens où ils ne...
Ils partent pas en vacances ensemble, comme on dit.
L'Assemblée nationale, c'est ce qu'ils disent tous les deux.
Mais un petit café fait à la buvette une fois de temps en temps, ça fait pas de mal.
Naturellement, et puis ils se connaissent depuis 6 ans maintenant. Ouais.
Mais il ne faut pas être dans l'interpersonnel, ils sont amis, pas amis, ça au bout du compte assez peu d'importance, c'est de la politique. Et donc ce faisant, vous avez un Rassemblement national qui a besoin de se crédibiliser, et pour se crédibiliser, il a besoin qu'on lui doive quelque chose. Et de l'autre côté, vous avez une majorité qui est aujourd'hui un capilotade et qui a besoin de s'appuyer, même sans le dire et même en faisant semblant de ne pas le voir, sur le Rassemblement national, sur certains votes et sur certains textes. Et donc, il y a une alliance de circonstances.
Avançons un petit peu toujours dans cette séquence des derniers jours à propos du RN. Le compliment donc de la présidente de l'Assemblée nationale qui intervient quelques heures après qu'Emmanuel Macron a recadré sa première ministre concernant les fameux propos qui assimilent le RN à Philippe Pétain, au maréchal Pétain. Nouvel épisode aujourd'hui, puisque au renouvellement de la confiance d'Emmanuel Macron, la réponse d'Elisabeth Borne aujourd'hui, qui a réagi, on va lire ça ensemble, c'était pendant son déplacement à Angers, c'est ça ? Autour de la petite enfance. Tout va très bien, j'ai une relation très fluide avec lui, très fluide. Ce qui m'importe, c'est qu'on agisse pour répondre aux priorités des Français. Le reste, c'est une tempête dans un verre d'eau. Tout va très bien, madame la marquise. Pourquoi ?
C'est toujours la même, en fait.
C'est ça, et c'est la question que j'allais posé à Johan, pourquoi le président et la première ministre se sont-ils obligés de nous rappeler chaque jour à quel point ils sont en fusion l'un et l'autre ? En tout cas, à quel point ils s'entendent bien.
Précisément parce que ça n'est pas le cas. Quand vous êtes obligé de rappeler tous les jours que tout va bien. Voilà. C'est que tout ne va pas si bien, parce que quand ça va bien, il n'y a pas de sujet, vous n'avez pas besoin de le dire. Non, en réalité, il y a des vraies frictions et des vrais points de désaccord entre eux. Personnellement, même, j'ai le sentiment que ça devient compliqué de travailler. Il y a une sorte d'animosité, me semble-t-il, qui est en train de se créer.
Passera-t-elle le 14 juillet à Matignon ?
Alors, le 14 juillet, oui, c'est possible. Passera-t-elle l'automne ? Alors là, moi, je vous dirais plutôt non. Donc, elle est en sursis, manifestement. On dit ça depuis un petit moment, mais il me semble qu'un remaniement à la rentrée au mois de septembre n'est pas quelque chose de complètement extravagant. Je crois que le Premier ministre et le Président ont de plus en plus de mal à travailler ensemble, ont de plus en plus de désaccords. Ça commence à se voir, c'est là où ça devient gênant. Ça commence à avoir un impact, en quelque sorte, sur la vie politique. Donc, peut-être est-il temps que ça s'arrête. Ça, c'est au Président et à la Première ministre d'en juger, mais... Voilà, on sent bien, en tout cas, qu'on est sur la fin d'une relation politique.
Le divorce prochainement prononcé, un dernier mot, quelqu'un veut réagir.
La question pour le remplacer par qui, en réalité ?
C'est-à-dire vous dites, pardonnez-moi ?
Pour la remplacer par qui ? Oui. C'est-à-dire
que c'est sûr que monter à bord du Titanic, il n'y a pas beaucoup de candidats.
Il y a ça, deux, il n'y a pas vraiment d'arrière-ban en Macronie, c'est candidats, aujourd'hui une venue galégienne.
Oui, il y a des candidats, des noms,
mais surtout,
beaucoup de candidats.
Il y a beaucoup de candidats, mais il faut quelqu'un qui arrive à tenir une majorité parlementaire.
Qui serait en pôle ?
Je rappelle que c'est vous mettez Darmanin, il ne tiendra pas la gauche, que va faire Sacha Houlié ? Vous mettez quelqu'un de la gauche.
Qui n'aille pas la présidentielle également.
Aujourd'hui, qui serait votre favori, vous l'expert ?
C'est le vrai problème. Pour moi, il n'y a pas de favori.
Il n'y a pas de favori ?
Parce qu'il faut quelqu'un qui tienne une majorité parlementaire, et aujourd'hui, il n'y a personne d'assez consensuel dans la majorité et dans ses proximité.
C'est peut-être pour ça qu'elle reste en place.
Quinquennat. Pour l'instant, à défaut de mieux.
En fait, c'est un Premier ministre par défaut que nous avons.
Donc, prochain feuilleton demain par.
C'est ça.
Et ça veut dire que Macron est extrêmement en difficulté en réalité. C'est parce qu'il la garde, mais parce qu'il n'a pas d'autres options pour le moment. Donc, ça traduit un certain vide politique. Moi, ce qui m'amusait dans sa déclaration, c'est le mot fluide. On a tous souri. Oui. Ces gens-là parlent décidément pas comme tout le monde. Ou alors, c'est aussi révélateur de leurs relations. Parce que, pourrait dire, j'ai des relations, de très bonnes relations avec le président de la République. Nous travaillons bien ensemble. Ils sont pas capables de parler français. C'est étonnant tout de même.
Je change de sujet. Une nouvelle péripétie pour Joe Biden. Franchement, je trouve ça triste et c'est assez triste de voir l'image que je vais vous montrer dans un instant. On passe par l'actualité d'abord. Mathieu Devez.
Un an de prison avec sursis a été requis contre Laetitia Avia. L'ancienne députée de Paris et pilier de la majorité est jugée pour harcèlement moral sur 7 de ses ex-assistants parlementaires entre 2017 et 2020. Dans son réquisitoire, la procureure a estimé que l'élu avait bien dénigré et humilié ses collaborateurs. L'assurance maladie émet de très fortes réserves sur le projet de fusion de la carte d'identité avec la carte vitale. Cette fusion envisagée par le gouvernement doit permettre de lutter contre la fraude sociale. Mais selon l'assurance maladie, le projet ne semble répondre à aucun besoin. Il pourrait même fragiliser le déploiement de l'application carte vitale sur les téléphones. Enfin en tennis, c'est déjà fini pour les Français à Roland-Garros. Arthur Rinderknecht a été battu ce soir en 4-7 par l'Américain Taylor Fritz. Sur les 28 tricolores engagés dans les tableaux principaux, il était le dernier à pouvoir encore atteindre le troisième tour, hommes et femmes confondus. Mais l'Américain était trop fort ce soir malgré un immense soutien du public parisien.
Ça fait trois jours que Roland Garros a commencé. Je crois qu'il y a déjà quasiment plus un Français. Mais bon. Nadal, pas en même temps, les années suivent et se ressemblent. Hein.
Non, sans Nadal, sans Federer.
Sans Nadal, sans Federer. Mais avec Alcaraz, c'est qui votre favori, vous, cette année? J'ai l'impression que vous êtes très tennis.
Non, très tennis, mais moi, je suis très Federer. Je suis admiratif de...
Je mets une pièce sur Tsitsipas.
Oui, bah oui, bien sûr.
On en reparle dans une dizaine de jours.
Pour le pôle, la pole position.
Ouais. On continue l'émission? On se fait un petit échange. Oui, cette image que je voulais vous montrer, Joe Biden. Franchement, c'est triste à voir, mais je voudrais avoir votre avis sur cette image. Le démocrate, le président des États-Unis, qui venait remettre des diplômes à des élèves de l'armée de l'air dans le Colorado, il est tombé, regardez, vers l'avant, se réceptionnant sur les genoux et les mains, après avoir apparemment trébuché sur un sac noir. En tout cas, c'est ce qu'il a désigné au moment de se relever. Une image qui commence à faire le tour, évidemment, vous l'imaginez, des réseaux, des différentes chaînes info. Il s'est relevé avec l'aide d'un militaire qui se trouvait à ses côtés avec ses gardes du corps. On l'a vu donc montrer du doigt ce sac utilisé visiblement pour lester un appareil sur scène. Le président candidat à l'élection de 2024, face notamment à Donald Trump, vous le savez, a assisté à la fin de cette cérémonie, semble pas très affecté par sa chute. Mais tout cela, bien sûr, alors on va pas passer une heure sur cette image, de toute façon il nous reste 10 minutes d'émission, mais voilà, beaucoup de polémiques, notamment depuis l'annonce de sa nouvelle candidature, sur son âge, sur sa fragilité simple, parfois. Ouais. C'est franchement, moi, de voir cette image, ça m'a fait de la peine. Je trouve que c'est un moment, oui, c'est ce qu'on appelle parfois, dans un langage un peu trivial, un grand moment de solitude.
C'est inquiétant pour les politiques américaines parce qu'en réalité...
Pardonnez-moi.
Je dis c'est très inquiétant pour les politiques américaines parce qu'en réalité, s'ils se représentent, c'est aussi parce qu'il n'y a pas d'arrière-ban aujourd'hui chez les démocrates. Et donc ça montre que, d'ailleurs, chez les républicains, comme le même problème va se poser avec Donald Trump. Mais aujourd'hui,
vous êtes deux centistes qui est en embuscade quand même chez les républicains.
Oui, mais qui est affaibli ces derniers temps. Et donc on a quand même une vie politique américaine qui ne se renouvelle pas. Et en effet, peut-être est-ce que c'est l'âge de la retraite.
Voilà. Ça me rappelle le jour où nous avions traité l'officialisation de la présentation de la candidature pour 2024 de Joe Biden. Il y avait un éditorial du Wall Street Journal que j'avais trouvé qui disait demander au pays d'élire un homme de 80 ans dont le second mandat s'achèvera à 86 ans est un acte, risqué qui confine à l'égoïsme. Est-ce qu'une image comme celle-là va dans le sens de cet éditorial qui...
Oui, c'est... Alors, j'ai pas envie de me moquer d'un vieil homme.
Non, je vous montre pas du tout cette image je vous dis franchement, c'est triste à voir.
Je préfère le préciser. Il est pas bien physiquement, c'est une chose. Il pourrait avoir toutes ses capacités intellectuelles, mais il y a un doute qui est encore plus préoccupant, je dirais, que sur les capacités physiques. Donc, la question qui se pose après, c'est qui gouverne? Je crois qu'il y a un doute sur qui gouverne aujourd'hui. Est-ce que c'est Biden ou est-ce que c'est son administration? Or, c'est quand même Biden qui est élu.
Après, c'est pas parce qu'il chute qu'il n'a pas sa tête. Hein.
Non, c'est pas la même accumulation.
Oui, il y a eu des gaffes et on les a...
Imaginez une campagne électorale.
J'ai dit qu'il y avait un doute. Quoi. Et la dernière fois, il a fait campagne pendant le Covid, donc il n'a pas fait beaucoup campagne.
Oui, mais c'est ça. Il y a ça aussi, la prochaine campagne. Moi, j'ai hâte de voir.
Elle sera plus intense que celle de 2020, oui. 2020.
Mais les enjeux, on sent quand même qu'il commence à porter le poids des années. Enfin, on va pas se mentir.
Il commence, c'est un bout.
Oui, 80 ans. Très clairement. Et quand Alexandre dit, je ne sais pas qui gouverne, la question se pose. C'est vrai que.
On va exagérer quand même.
Non, mais attendez, on l'imagine pas taper du poing sur la table pour dire maintenant vous allez exécuter. Je sais pas, mais c'est l'impression que ça donne. Il reste le président des États-Unis. Évidemment, il jouit de tous ses pouvoirs. C'est pas le sujet. Mais est-ce qu'à cette âge-là, il peut gouverner, présider en l'occurrence, comme on préside quand on a 50 et 60 ans, c'est une question légitime, c'est pas à moi d'y répondre, ce sera aux électeurs américains de trancher puisqu'il est candidat. Donc,
rendez-vous voilà,
les électeurs ont toujours le dernier mot et ont toujours raison.
Rendez-vous donc en novembre 2024, c'est toujours le mois de novembre, les élections américaines. Bon, notre tout dernier thème, tiens, J'allais dire plus léger. Oui, plus léger quand même, bien sûr. Cette question, assiste-t-on à la fin de l'ère de l'écriture manuscrite? C'est une vraie question parce qu'un sondage publié par Otipo et réalisé par l'IFOP, que on découvre aujourd'hui, révèle que 78% des personnes interrogées disent écrire moins à la main qu'il y a 10 ans. D'après les pourcentages révélés, seule une minorité de nos concitoyens écrit aujourd'hui plus souvent sur papier qu'avec un clavier. 55% des Français utilisent désormais plus le clavier que le stylo pour écrire au quotidien. Et au quotidien, et moins d'un Français sur deux, ça me fait mal, moins d'un Français sur deux a écrit au moins une lettre sur papier sur les 12 derniers mois. C'est la fin. La fin d'une ère, les amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Écoutez quelques Français interrogés à ce sujet dans les rues. Est-ce que vous continuez à écrire? Est-ce que vous aimez prendre le stylo, le saisir, apporter votre calligraphie personnelle? Oui, il y a encore des Samaritains, les derniers Samaritains de l'écriture.
Dans mes notes, j'ai une liste des personnes à qui j'envoie des cartes postales. J'oublie assez régulièrement, mais une fois par an, je dois le faire. J'aime le papier, j'aime écrire. Je trouve que c'est plus charmant d'envoyer une feuille de papier.
J'écris mon journal parfois, j'écris des notes. J'aime bien écrire et lire.
Ça m'arrive d'écrire des cartes postales. Ça m'arrive d'écrire dans un petit carnet chez moi, tranquillement. C'est un moment de concentration. Et à notre époque, la concentration, c'est précieux. On nous prend du temps de concentration et il s'agit de le revoler.
Un plaisir d'écrire. Ouh, ça fait longtemps, mais souvent sous forme de lettres que j'envoie à ma grand-mère. Mais c'est la seule fois où j'écris.
Le constat est sans appel, chers amis. Les courriels, donc les emails, les textos SMS ont remplacé les courriers. L'écriture manuscrite se perd. Vous avez un petit point de nostalgie à l'aune de ce sondage que je vous révèle ? Écrivez-vous des lettres?
Alors, j'écris des cartes de vœux chaque année, quelques lettres, mais je corrige beaucoup de copies. Et c'est là qu'on voit en réalité que...
Ah, moi, je parle pas de ça, des copies.
Non, mais c'est là qu'on voit qu'on perd beaucoup. Parce que, mes étudiants n'écrivent pas très bien, mais j'écris bien pire qu'eux. Parce qu'en réalité, à force de ne pas écrire, on perd malgré tout la possibilité d'écrire. Et on n'écrit pas manuscrit comme on tape, en réalité. Et je trouve qu'on perd justement à la fois une concentration et un style quand on n'écrit plus... au stylo.
C'est exactement
et
ce que disent les experts de ce sujet.
Un peu de nostalgie.
Mais c'est sur les apprentissages, en fait, ça a un impact positif d'écrire. Il y a vraiment sur le traitement de l'information aussi.
Ce que j'ai lu aujourd'hui, c'est que on aurait, et surtout pour les plus jeunes, dans un premier temps, avant 10, 12 ans, avant même une quinzaine d'années, vous auriez quand même intérêt à continuer à écrire à la main parce que ça a un impact sur l'acquisition du savoir, sur l'acquisition de la lecture. Introduire le clavier avant l'acquisition de la lecture et de l'écriture, ça peut être très nocif et faire baisser les performances justement en écriture. C'est fini, Karima, les relations épistolaires, les lettres d'amour qu'on conserve. Moi, quand j'étais adolescent, je me souviens qu'on s'écrivait les uns les autres des lettres d'amour et puis on les gardait. On les conservait dans une boîte et puis un an, deux ans, trois ans, dix ans après, vous la ressortiez. Et puis ça vous... me souviens de cette époque et vous relisiez les lettres d'amour, tout ça. Les jeunes d'aujourd'hui ne le font plus.
On sent que c'est votre Madeleine de Proust.
Non, c'est pas ma Madeleine de Proust, mais c'est vrai que...
C'était plus beau pour passer un texto, quoi.
C'est mieux, que des textos avec je vais avec un G et un V, ou je sais pas, et puis un texto, ça s'efface, ça se perd.
Faites attention, vous devenez réactionnaire.
Écoutez, est-ce que ça. Un petit tour de table, il nous reste 2 minutes 30. Dites-moi ce que vous en dites.
Il y avait l'anticipation aussi de recevoir une lettre.
À quand remonte votre dernière lettre manuscrite, chère Karima?
Manuscrite?
Oui, c'est ça dont on parle.
Oui, ça remonte un petit peu, mais je reçois quand même des lettres.
Oui, c'est vrai qu'il y a certains textos.
Plus qu'un texto.
Plus que des textos?
Oui, plus qu'un texto. Donc
vous recevez des lettres en papier, des lettres en courrier.
Oui, c'est ça, mais écrit malheureusement.
Ça compte pas.
Mais quand même des longues lettres,
vous trichez, là. Vous trichez. Alors, ce que j'ai vu, Alexandre, c'est que ce n'est pas que générationnel, parce que 90% des plus de 65 ans sondés écrivent de moins en moins à la main également, donc ce n'est pas forcément générationnel, c'est juste... que les usages changent, c'est aussi simple que ça.
C'est vrai, mais paradoxalement, je pense que c'est beaucoup moins inquiétant que les gens qui ont 90 ans, ou même de mon âge ou du vôtre, n'écrivent plus que...
On a le même âge.
Peut-être
un petit peu plus vieux.
Mais même de notre âge, on n'écrit plus qu'à l'ordinateur.
C'est vrai.
Je pense que c'est pas très grave, mais c'est la question importante, vous la souleviez tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les jeunes générations? Est-ce qu'on considère que l'écriture manuscrite n'a plus du tout de sens ou pas? Moi, je crois qu'effectivement, ça a un sens, ça permet de se structurer, de réfléchir, d'avoir un style, et je pense que ce serait une erreur de l'abandonner. Les études, d'ailleurs, le monde, ce serait sans doute...
Vous avez déjà vu des cahiers d'écoliers ou des lettres...
Des gens encore plus mauvais en orthographe que moi.
Vous avez déjà vu des cahiers d'écoliers ou des lettres d'enfants dans les années, je ne sais pas, 20, 30, 40, ouais. 50, 60?
C'était
vu la calligraphie, le soin avec lequel les enfants... Moi, j'ai vu des cahiers, soit d'aïeux, soit de parents, enfin, peu importe.
Il y avait une discipline.
On a tous vu des cahiers anciens, des cahiers scolaires, des manuels scolaires d'enfants, mais c'est fou. Vous avez l'impression que c'est fait par une machine, tellement c'est beau, tellement c'est propre, tellement c'est régulier, tellement il y a de la symétrie. Bon, en 5000 ans d'écriture, c'est vrai que les outils ont évolué, c'est comme ça.
Et puis, non, juste un dernier mot, parce qu'il y a un sujet qui est corollaire, c'est les écrans. Si demain, les enfants apprennent à écrire avec un clavier, ça veut dire qu'ils apprennent aussi à écrire avec un écran. Et là, on voit que la Suède, qui a été passée au tout numérique, fait marche arrière parce que ça a des conséquences graves sur la concentration, etc.
L'écriture manuscrite, c'est vraiment que c'est unique aussi à chaque personne. Donc, il y a vraiment une spécificité.
En un coup d'œil, vous savez qui vous écrit. Vous reconnaissez l'écriture. Ah, j'ai reçu une lettre de...
Voilà.
Ah, une carte postale des grands-parents, de la Côte d'Azur, de je ne sais où. Ah, elle est à l'étranger, elle est au Québec. Ah, j'ai reçu une carte du Québec. C'est écrit à la main.
Mais vous êtes nostalgique.
Franchement, moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Je ne sais pas la dernière fois que j'ai reçu autre chose qu'une facture ou qu'un avis de quelque chose dans ma boîte aux lettres, en fait.
On va vous écrire.
Je ne me souviens pas de la dernière fois.
Tout le monde, on vous envoie tous une carte. Bah
alors, heureusement, il y a quelques. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelques personnes qui semblent m'apprécier et qui, de temps à autre, m'envoient des lettres ici à la chaîne. Mais bon, c'est très rare. Maître Bovis.
En fait, c'est un paradoxe parce qu'on pourrait se dire que, justement, avec la disparition du stylo et, au contraire, maintenant, l'utilisation massive des téléphones, ordinateurs pourrait conduire, justement, à lutter contre l'illettrisme avec les correcteurs automatiques. Et en fait, pas du tout. Moi, je reçois des mails avec des fautes d'orthographe, mais énormes, énormes. Et en fait, je regardais un peu...
Même le correcteur n'ose pas les corriger.
Exactement. Corrige pas. Et il y a encore à peu près, je crois, 10 ou 12 millions de personnes qui sont en situation d'illettrisme. Donc, si vous voulez, la disparition du stylo au profit de l'ordinateur ne corrige même pas ce problème. En plus de la nostalgie, vous avez encore ce problème-là qui s'ajoute.
Mais après, vous pouvez avoir un phénomène un petit peu inverse. Je pense que vous allez avoir un retour à la mode de l'écriture dans quelques mois, dans quelques années.
On aura des cafés Momo.
Abat les ordinateurs. Retour à l'écriture. Je militerai. Je serai en tête de cortège pour militer pour le retour des relations épistolaires, des lettres d'amour, des échanges.
Ça rentrera dans la catégorie. T'es mieux avant.
Voilà. La dernière image. La dernière image de la soirée. Petite question, tiens. Est-ce que vous croyez aux ovnis?
Pas du tout.
Pas du tout, vous avez tort.
Ça existe.
Ça existe et j'en ai la preuve. La NASA a tenu hier sa première réunion publique sur les ovnis. Regardez bien, elle a montré... Non, mais c'est très sérieux là ce que je vous raconte. Elle a montré pour la première fois... Hop là, c'est dans le cercle rouge. Pour la première fois, une vidéo sur laquelle on peut voir un objet volant non identifié, à savoir ovni, aperçu au Moyen-Orient en 2022. Ça a suscité une multitude de réactions sur les réseaux. Cette séquence montre une sphère volante métallique en train de voler à grande vitesse et à basse altitude au-dessus. Si on prend l'échelle des maisons qu'elle survole, la sphère semble mesurer environ 1 mètre de diamètre. Même avec un arrêt sur image, il est impossible de savoir s'il s'agit d'une pierre catapultée, d'un drone ou d'autre chose. C'est un phénomène qui reste inexpliqué par la NASA aujourd'hui. Cette vidéo qui met en tout cas du carburant dans la machine à fantasmes autour des... UFOs, comme disent les Américains, des ovnis. Donc.
Un mètre de diamètre, c'est pas une soucoupe volante.
Non, mais ça peut être un objet volant, ça peut venir d'une autre planète, d'un autre système solaire. Vous n'en savez rien, Johan.
On a le temps de voir venir, quand même.
Et c'est quoi, alors? Une boule de bowling lancée par un homme surpuissant?
Il y a une explication rationnelle à tout.
Non, mais ce qui est vrai, c'est si l'OVNI, si la NASA n'a pas de réponse, excusez-moi, Johan Usaï, je vous respecte beaucoup, mais je ne suis pas sûr que vous en ayez une.
Avec un mètre de diamètre, mais je suis certain qu'il en existe une.
Avec un mètre de diamètre, la planète des singes, je n'ai pas de Simba demain, en tout cas, c'est ça.
Non, on a le temps. Bon, voilà, je vais vous montrer un OVNI. Alexandre, vous aimez les OVNI? Désormais, grâce à moi.
Moi, je trouve ça très bien, ceux qui croient
aux ovnis. C'est parfait, les ovnis. Continue, je suis
pourquoi pas, il faut bien croire en quelque chose.
Alexandre Devecchio est raélien.
Merci. Merci à tous.
Il tire, rencontre deux
troisième type,
ça fait rêver.
Ouais, non, mais... Comment on dit au revoir en
vous lancez un sujet et après.
Vous regardiez.
Faites comme dans la chose, vous savez.
Oui.
Star Trek,
Non, je préfère Star Trek, c'est comme ça. Non, je me souviens plus.
Je crois.
C'est comme ça, au revoir. À demain. Merci beaucoup à Loumna Daoudi qui a préparé cette émission. Merci à vous de la suivre. L'édition de la nuit dans un instant. Demain et bonne nuit.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.